La vraie foi contre la fausse foi. La plupart des gens présument qu'ils ont la foi parce qu'ils croient aux événements de la vie de Jésus tels qu'ils sont déclarés dans la Bible, en particulier qu'il était bien celui qu'il prétendait être, le Fils de Dieu. Mais Paul nous dit, « La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, c'est-à-dire la parole de foi que nous prêchons. » Romains 10:8. Alors, où se trouve donc la parole? Et elle n'est pas dans le ciel, pour que tu dises, « Qui montera pour nous au ciel et nous l'apportera, afin que nous l'entendions et que nous la mettions en pratique. » Et elle n'est pas non plus au-delà de la mer, pour que tu dises, « Qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'apportera, afin que nous l'entendions et que nous la mettions en pratique, mais la parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu lui obéisses. » 2 Corinthiens 10:14 Vous devez avoir foi dans la parole qui est en vous, dans votre cœur et dans votre bouche. Une foi suffisante pour écouter, et une foi suffisante pour obéir aux commandements entendus. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, Romains 10:17, la foi vient de l'écoute de la parole de Dieu qui parle depuis l'intérieur de votre cœur. Quand vous entendez la parole venant du dedans de votre cœur, votre foi croîtra de façon exponentielle. Ainsi la vraie foi consiste à obéir au Christ, la lumière et la parole au-dedans de l'homme, qui parle à l'homme, et non pas simplement à croire à l'exactitude historique des affirmations bibliques concernant la naissance, la mort et la résurrection de Jésus. Celui qui croit au Fils de Dieu a le témoignage en lui-même, 1 Jean 5:10, et ce témoignage est entendu et obéi, puis finalement vu. Qui est celui qui triomphe a vaincu du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu, 1 Jean 5:5. La vraie croyance triomphe du monde, et la vraie foi remporte la victoire. Écoutez ma voix et obéissez-y, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple, et marchez fidèlement dans les voies que je vous commande, afin que tout aille bien pour vous. Jer 7:23 Il Jésus est devenu l'auteur et la source du salut éternel pour tous ceux qui l'écoutent et lui obéissent. Hébreux 5:9 En entendant la parole au-dedans, pour qu'elle soit révélée comme étant Jésus, Jésus a été l'auteur de votre foi. La foi est un mystère révélé à chaque homme, cette foi est un don de Dieu. La foi que les apôtres prêchaient n'était pas une foi extérieure, mais une foi intérieure. L'objet des deux fois est le même, mais les différences sont cruciales pour réaliser les promesses de Dieu. Les deux fois sont, adhérer au récit historique de la Bible selon lequel Jésus était le Fils de Dieu, né d'une vierge, ressuscité d'entre les morts, monté au ciel, etc. C'est la foi biblique extérieure, entendre la parole de Dieu, cette parole qui est dans votre cœur pour lui obéir, c'est la parole de foi que les apôtres prêchaient. Entendre Jésus vous parler depuis l'intérieur de votre cœur et lui obéir, c'est la foi opérante, la foi intérieure, une foi qui vous est donnée par Jésus lui-même. Par une obéissance persévérante aux commandements entendus de Dieu dans votre cœur, cette foi intérieure justifie, purifie, rachète, rend juste, sanctifie et sauve, pour vous donner la paix, la joie et la justice dans l'union et la communion avec le Christ et le Père, c'est voir et écouter votre bien-aimé, en menant une vie sainte qui lui plaît. George Fox a écrit au sujet de cette foi intérieure et de la concentration nécessaire, « Le Père est en vous tous, Christ est en vous, et le royaume des cieux est en vous, c'est là, dans vos cœurs, que vous les trouverez tous. » Sachez-le là, scrutant vos cœurs, et trouvez-le là, éprouvant vos esprits et vos cœurs, prêtez l'oreille et écoutez-le là, lui qui rendra à chacun de vous selon vos paroles et vos œuvres, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. La foi est un voyage, la foi est une série de révélations. Elle a un commencement et une fin, écoutez Jésus et lui obéir, c'est lui qui devient l'auteur et le consommateur de votre foi. Quand vous l'entendez vous parler, Jésus est l'auteur de votre foi en posant le fondement de votre foi sur le roc. Quiconque vient à moi, écoute mes paroles et les met en pratique, les pratique, obéit, je vous montrerai à qui il ressemble. Il est semblable à un homme qui bâtit une maison, creusa profondément et posa le fondement solidement sur un roc, et quand survint l'inondation, le torrent se déchaîna contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était fondée sur le roc. Luc 6:47-48. Et quand vous entendez Jésus vous dire ces paroles, et que vous croyez que c'est lui, le fondement de votre foi a été établi sur le roc, un roc si solide que les portes de l'enfer ne peuvent pas l'emporter contre lui. Jésus achève votre foi lorsque vous le voyez apporter votre salut. À ceux qui l'attendent avec persévérance et patience, il apparaîtra une seconde fois, non pour porter le péché, mais pour apporter le salut complet. Hébreux 9:28 Car la grâce de Dieu qui apporte le salut. Tite 2:11 Attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Jude 1:21 Recevant la fin de votre foi, le salut de vos âmes. 1 Pierre 1:9 Et Pierre décrit la nécessité de faire tous les efforts possibles pour progresser dans le voyage de la foi. C'est pourquoi faites tous vos efforts le maximum possible pour ajouter à votre foi la vertu l'excellence, et à la vertu la connaissance, et à la connaissance la maîtrise de soi, et à la maîtrise de soi la persévérance et la patience, et à la persévérance la piété, et à la piété l'affection fraternelle, et à l'affection fraternelle l'amour. Ainsi donc, frères, appliquez-vous à affermir votre vocation et votre élection, car si vous faites ces choses, vous ne tomberez jamais. 2 Pé 1 5 7 10. Votre foi doit reposer sur votre expérience de la puissance de Dieu, et non sur des paroles prononcées par des hommes ou sur la lecture. La puissance de Dieu est promise pour vous délivrer et vous séparer de vos péchés, ce qui est le salut. Vous êtes sauvés par la foi, et par la foi vos cœurs sont purifiés, mais de toute évidence au commencement de la foi, vous n'êtes pas purifiés, et vous n'êtes pas non plus sauvés. Avant la purification et le salut, votre foi doit être éprouvée par plusieurs épreuves, au cours desquelles vous devez souffrir douloureusement, afin d'être purifié du péché. Vous devez combattre pour la foi, croître dans la foi, édifier votre foi, augmenter en foi, perfectionner ce qui manque à votre foi, combattre le bon combat de la foi, jusqu'à la victoire, lorsque votre foi est achevée par celui qui l'achève. La foi est un processus et un voyage dont l'aboutissement est de voir le Christ apporter votre salut, d'apporter votre vie éternelle. Jacques a corrigé le raccourci consistant à croire en Jésus, comme si c'était tout ce qui était nécessaire au salut, en écrivant aux chrétiens juifs « Tu dis que tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. » Les démons aussi le croient, et ils tremblent, James 2, 19, comprend que Jacques écrivait à des croyants juifs pour qui le Père, la Parole, le Fils et le Saint-Esprit sont un seul esprit, sans contredire « Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu est un. » 2, 6, 4. Ainsi en substance Jacques dit « Tu dis que tu crois en Jésus, tu fais bien, les démons aussi, mais ils tremblent à son nom, et toi, pour que Jésus soit ton Seigneur, il doit ordonner tes pensées, tes paroles et tes actes. Pour que Jésus soit ton roi, tu dois être gouverné par lui dans ton cœur, il n'est roi que là où il est roi. » La prédication de la parole intérieure diffère de la chrétienté, qui enseigne que la Bible est la parole. Pourtant, la Bible appelle les paroles qu'elle contient les Écritures, et désigne Jésus comme la parole de Dieu. La parole est devenue chair et a habité parmi nous. Nous avons vu sa gloire, la gloire du Fils unique, venu du Père, plein de grâce et de vérité. Jean 1, 14, il est clair qu'il ne s'agit pas de la Bible, mais du Christ, la parole de Dieu. Ainsi, les Quakers disaient que, à moins d'entendre le Seigneur vous parler au-dedans de vous et de croire qu'il est le Fils de Dieu, comme en témoigne votre obéissance au commandement de la lumière et de la parole, vous n'aviez pas réellement la foi telle que Paul la définissait. La foi vient de l'écoute de la parole de Dieu ou du Christ. Romains 10, 17 est une écriture cruciale pour comprendre ce qu'est la foi. Rappelez-vous, Paul nous dit en Romains 10, 8 qu'il prêchait la parole de foi qui est dans votre cœur. Ainsi, la foi consiste à entendre la parole du Christ depuis l'intérieur de votre cœur et à la reconnaître comme l'Esprit de Dieu qui vous parle, ou comme le Christ qui vous parle, et à y croire assez pour obéir. Ainsi croire, c'est croire faire confiance, dépendre de obéir à la parole au Christ entendu dans votre cœur. Heureux ceux qui entendent la parole de Dieu et la gardent la pratique, lui obéissent. La chrétienté voudrait vous faire croire qu'entendre quelqu'un lire les paroles de la Bible, c'est entendre la parole de Dieu, et que si vous y croyez, vous êtes un croyant. Mais cela ne produit qu'une croyance en un livre et une foi dans les paroles d'un livre. Or Paul vient de nous dire que la foi vient de l'écoute de la parole, parole qui est dans nos cœurs. Donc, pour avoir une foi réelle, vous devez entendre le Christ depuis l'intérieur de votre cœur et croire que celui que vous entendez est le Fils de Dieu, et croire assez pour lui obéir entièrement. Paul déclare clairement que nous devons être instruits en entendant Jésus nous parler. Vous ne devez pas marcher comme marchent les autres païens, dans la vanité de leurs pensées, l'intelligence obscurcie, étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, en raison de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment les remords de conscience, ils se sont livrés aux débauches charnelles pour commettre toutes sortes d'impuretés avec avidité. Mais vous n'avez pas ainsi appris le Christ, à supposer que vous l'ayez réellement entendu et que vous ayez été enseigné par lui, comme la vérité est en Jésus. F4 17-21. Bon et droit est l'Éternel, c'est pourquoi il enseignera aux pécheurs la voie. Il conduira les humbles dans ce qui est droit, et il enseignera aux humbles sa voie. Psalme 25, 8-9. Moi le Seigneur, je t'instruirai et je t'enseignerai le chemin que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai l'œil sur toi. Psalme 32, 8. Alors, ce n'est pas un livre au sujet de Jésus, mais Jésus lui-même qui est la source et l'auteur de votre foi. La vraie foi, dont Jésus est l'auteur et le consommateur, le perfectionneur de notre foi. Hébreux 12, 2. Par l'obéissance à la parole Jésus, vous avez la foi, car Jésus est devenu l'auteur et la source du salut éternel pour tous ceux qui l'écoutent et lui obéissent. Hébreux 5, 9. Croire c'est obéir, l'obéissance conduit au salut, l'obéissance conduit à la justice. Jésus a dit « Heureux ceux qui entendent la parole de Dieu dans votre cœur et la gardent, la pratique, lui obéissent. » Luc 11, 28. Jésus a dit « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui entendent la parole de Dieu et la mettent en pratique obéissent. » Luc 8, 21. Si vous pensez que cela signifie entendre quelqu'un lire la Bible, vous avez manqué la possibilité de chercher à entendre Dieu par vous-même. Vous aurez manqué la bénédiction. vous aurez manqué le salut. Vous devez chercher, écouter et obéir pour trouver une quelconque bénédiction de Dieu. La foi, c'est entendre la parole du Seigneur au-dedans de vous et lui obéir. Paul ne parle pas du Christ sanctifiant son Église au moyen de la Bible lorsqu'il dit « afin de la sanctifier et de la purifier par le lavage d'eau par la parole ». Vous devez entendre et obéir continuellement pour être purifié ou être jamais sanctifié. Pour entendre, vous devez aller à lui. Vous devez l'attendre, écouter en silence, avec l'humilité d'un pécheur ayant besoin de sa puissance transformatrice, la grâce. En obéissant à la voix du Seigneur, la parole intérieure, le Christ la lumière apparaît ensuite au-dedans de votre cœur, Christ la lumière, qui éclaire tout homme venant dans le monde. Les premiers Quakers furent persécutés parce qu'ils prêchaient qu'il faut recevoir les convictions de la lumière comme étant le Christ, et que, reconnues comme vraies et venant du Christ au-dedans, elles conduiraient à la purification par la grâce de Dieu, qui enlève les défauts du cœur, et qu'en demeurant dans la lumière, le sang du Christ les purifierait de tout péché. Les Quakers disaient encore qu'il faut être témoin, voir et sentir de son salut, qui vient après la pureté, avec le glorieux retour du Christ au-dedans, aboutissant à l'union avec Dieu et à l'entrée dans le royaume des cieux des ici-bas, puis pour toujours. Le baptême d'eau, la fréquentation des offices des sectes, la prière sans parole provenant du Saint-Esprit, et le simple fait de lire la Bible, sans la direction de l'interprétation de l'Esprit, étaient déclarés abominables, provenant de l'esprit charnel, qui est inimitié contre Dieu. Ce n'est que lorsque le vieil homme est mort et qu'une créature entièrement nouvelle, régénérée, est apparue, avec un cœur circoncis seulement par la croix, que l'œuvre du salut est achevée. Ainsi, plutôt que de présumer être sauvé, ils devaient voir, et même l'inclination au péché, ôtée par le Christ de leur cœur, devenant ainsi purs, entrant dans le repos, entrant dans le royaume, entrant au paradis. Les premiers Quakers disaient que le salut, c'est voir son Sauveur apporter le salut, et avoir communion avec le Christ et Dieu, un salut qui survient après la crucifixion de l'esprit égoïste jusqu'à la pureté sur la croix intérieure du renoncement à soi. Ils témoignaient être entrés dans le royaume des cieux que le Christ disait être venu prêcher. Les Quakers furent envoyés prêcher le même message que Paul reçut l'ordre de prêcher de la part de Jésus, leur ouvrir les yeux, les tourner des ténèbres à la lumière et du pouvoir de Satan à Dieu, afin qu'ils reçoivent ainsi le pardon des péchés, la délivrance de l'esclavage du péché, et un héritage parmi ceux qui sont purifiés par la foi en moi. Ainsi, la vraie foi est en un Dieu de puissance, qui peut purifier celui qui croit et le cherche dans ce but, quand il sera révélé, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui Jésus est pur. 1 John 3, 2, 3. Cette bonne nouvelle d'obéir à la lumière et à la parole au-dedans de vous, aboutissant finalement à la pureté et au fait de voir Jésus apparaître au-dedans, était une hérésie pour les sectes, lesquelles regardaient vers un Dieu extérieur, dans un ciel lointain, et prêtaient attention aux paroles de la Bible au lieu de la lumière et de la parole, le Christ en elle. Christ, la parole, nous parle avec des paroles que nous entendons dans notre cœur, et le Christ nous montre les choses spirituelles par sa lumière de la parole que nous voyons dans notre cœur. Les premiers Quakers dirent à toutes les sectes que leur incapacité à reconnaître et à obéir au Christ au-dedans d'eux était comme les Juifs, qui avaient la connaissance des Écritures, mais rejetèrent le Christ comme Messie. Or, ce que prêchaient les premiers Quakers et pourquoi les épiscopaliens, baptistes, presbytériens et puritains congrégationalistes les emprisonnèrent, saisirent leurs biens et même les tuèrent, était clairement affirmé dans toute la Bible, comme ci-dessous. « Ne suis-je pas un Dieu proche, dit le Seigneur, et non un Dieu lointain ?» Jère 23, 23 quoi. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, vous ne vous appartenez pas ?» 1 Cor 6, 19 « Afin qu'il cherche le Seigneur, et qu'il puisse peut-être le sentir et le trouver, quoiqu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui nous vivons, nous nous mouvons et nous avons l'être. Actes 17, 24, 28 « J'habiterai en eux et je marcherai en eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » 2 Cor 6, 16 « Lève 26, 12 « Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et par tous et en vous tous. » F 4 « Si mes petits-enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Galates 4, 19 « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» 1 Cor 3, 16 « Afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin que vous, étant enracinés et fondés dans l'amour, F 3, 17 « Dieu a voulu leur faire connaître quelles sont les richesses de la gloire de ce mystère parmi les païens, qui est Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Col 1, 27 « Parce que ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste en eux, car Dieu le leur a montré. » Rome 1, 19 « Car j'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui sera révélée en nous. » Romains 8, 18. Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même. Ne vous connaissez-vous pas vous-même que Jésus-Christ est en vous à moins que vous ne soyez réprouvés, éprouvés, rejetés. 2 Cor 13, 5. Que la parole du Christ habite en vous richement en toute sagesse, vous enseignant et vous exhortant les uns les autres avec des paroles du Christ dans vos cœurs par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant à Dieu de tout votre cœur avec reconnaissance. C'est 0 L 3, 16. Mais vous n'êtes pas dans la chair, vous êtes dans l'Esprit, si l'Esprit de Dieu habite en vous. Or, si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ pour gouverner un homme comme son roi, faisant sa volonté, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps est mort à cause du péché, mais l'Esprit est votre vie à cause de la justice. Romains 8, 9 dit Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans vos cœurs, criant « Abba Père ». Galates 4, 6 Mais l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme la même onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est vraie et qu'elle n'est pas un mensonge, et comme elle vous l'a enseigné, vous demeurez en lui. 1 John 2, 27 Si un homme demeure en moi, et moi en lui, il porte beaucoup de fruits, amour, joie, paix, calme et confiance assurée pour toujours, patience y compris longanimité, fermeté et persévérance, bonté y compris moralité et intégrité, bienveillance, foi, douceur y compris mansuétude et humilité, et maîtrise de soi, domination des appétits sensuels, des passions et des désirs. John 15, 5, 6, Galates 5, 22, 23 Quand vous portez, produisez ou donnez beaucoup de fruits, mon Père est honoré et glorifié, et vous montrez que vous êtes vraiment mes disciples, vrais disciples. John 15, 8 Cherchez Dieu et le trouvez, le voir au-dedans est le but même de la vie. Il Dieu a fait d'un seul sang toutes les nations des hommes, pour habiter sur toute la surface de la terre, ayant fixé les temps déterminés et les limites de leur demeure, afin qu'ils cherchent le Seigneur, et qu'ils puissent peut-être le sentir et le trouver, quoiqu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui nous vivons, nous nous mouvons et nous avons l'être, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et par tous, et en vous tous. Actes 17, 26-28, F4 Si la grande controverse de foi entre les premiers Quakers et les autres sectes du christianisme portait souvent sur ce que le sang de Jésus avait acquis pour le croyant. Les autres sectes disaient et disent que le sacrifice de Jésus rendait tout croyant juste et justifié, sans rien d'autre requis de leur part. Les Quakers disaient que son sang avait acquis le pardon avec une repentance sincère des péchés passés et leur permettait de s'approcher du trône de Dieu, en demandant sa grâce puissante pour ôter le péché et le désir de péché de leur cœur, et que la justification et une justice durable ne venaient qu'après l'œuvre de la grâce qui les convainquait de péché et l'ôtait de leur cœur. Ainsi les Quakers disaient que le sang du Christ pouvait les purifier de tout péché et du désir de péché, et pas seulement leur pardonner leurs péchés. Les premiers Quakers disaient qu'une foi qui ne pouvait pas vous délivrer du péché, et de la puissance de Satan n'était qu'une forme, une coquille de piété sans puissance. Leur foi était en un Dieu qui pouvait détruire le péché en eux, les délivrer de la captivité du péché, les faire passer des ténèbres à la lumière afin de demeurer dans la lumière et d'avoir communion avec le Fils et le Père. La grâce ne produit pas un salut instantané. Au contraire, la grâce est un processus d'enseignement auquel on accède par la foi, qui apporte le salut, après que le Seigneur vous a racheté de toute iniquité et vous a purifié, et qui se traduit par votre zèle pour les bonnes œuvres, comme l'a défini l'apôtre Paul dans Titus 2, 11, 14. Car la grâce de Dieu, source de salut, est apparue à tous les hommes, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans ce monde présent avec sobriété, justice et piété, tandis que nous attendons la bienheureuse. Titus 2, 11, 14, extrait du journal de George Fox. Vous devez avoir communion avec le Christ dans ses souffrances. 1 Pé 4, 12, 13 Si vous voulez régner avec lui, vous devez souffrir avec lui. 2 Tim 2, 12 Si vous voulez vivre avec lui, vous devez mourir avec lui. 2 Tim 2, 11 Et si vous mourrez avec lui, vous devez être enseveli avec lui. Romains 6, 4 Et enseveli avec lui dans le vrai baptême, vous ressuscitez aussi avec lui. Col 2, 12 Extrait de la lettre 262 de George Fox. La vraie espérance, la vraie croix, la vraie foi, le vrai culte, la vraie religion, la vraie voix, la vraie image et la vraie communion ont été perdus depuis les jours des apôtres, parmi ceux qu'on appelle chrétiens, qui sont hors de la vie. Et ceux qui ont perdu la croix du Christ, qui est la puissance de Dieu, dans laquelle est la vraie communion, ont dressé une croix de bois ou de pierre, donc de fausses croix et de faux chrétiens. Ceux qui ont perdu la vraie espérance, qui purifie, comme il est pur, ont établi un purgatoire pour les purifier quand ils sont morts. Et d'autres exaltent un corps de péché et de mort de ce côté-ci de la tombe, avec leur espérance d'hypocrite, et ils ont perdu le vrai ministère, et en ont établi un faux, pour prêcher l'imperfection. Or les hommes étaient imparfaits dans le vieil Adam avant que Christ vienne, car la loi n'a rien rendu parfait, mais le vrai ministre, Christ en vous, l'espérance de la gloire, rend parfait tant au jour des apôtres qu'au Dieu. Christ en vous, l'espérance de la gloire, a dit l'apôtre, que nous prêchons avertissant tout homme et enseignant tout homme en toute sagesse, afin de présenter tout homme parfait en Christ Jésus, Ainsi la perfection est en Christ Jésus, l'imperfection est dans le vieil Adam. C'est donc la vraie espérance qui purifie, et quiconque la possède se purifie lui-même comme il est pur. Et quiconque n'est pas en possession de cette espérance plaide pour l'impureté et l'imperfection, et pour un corps de péché et un corps de mort jusqu'à la tombe, et pour un purgatoire quand ils sont morts. Ceux-là ont une profession des Écritures, comme les pharisiens, et l'espérance des hypocrites qui périra. Et la vraie foi a été perdue depuis les jours des apôtres, la vraie foi qui purifie le cœur, qui est la foi des élus de Dieu, laquelle foi donne la victoire sur ce qui sépare de Dieu, dans laquelle foi vous tous plaisez à Dieu, laquelle foi est le don de Dieu, et dont Christ est l'auteur, que chacun regarde à lui pour l'obtenir, et pour son achèvement, lui qui en est l'auteur. Dans cette foi, tous les saints ont l'unité en ce qui donne la victoire sur le diable, car par la foi, qui est le bouclier, ils lui résistent et éteignent ses traits enflammés, et ils résistent à celui qui voudrait les souiller et les rendre imparfaits, et les conduire dans ces choses qui déplaisent à Dieu. Et tous ceux qui sont hors de cette foi, crient, « Pas de victoire tant que nous sommes sur la terre, mais ils doivent avoir un corps de péché jusqu'à la tombe, et un purgatoire pour les purifier, ceux-là sont tous dans l'erreur au sujet de la foi, ceux-là ont fait naufrage quant à la foi et à une bonne conscience, ceux-là sont tous dans la foi morte, et ainsi ne peuvent pas prêcher dans la foi vraie et vivante des élus de Dieu. Ceux-là sont tous hors de l'unité, car l'unité est dans la foi, qui donne la victoire sur le diable. Ceux-là sont hors de la vie juste, dans laquelle le juste vit par sa foi. La vie que je vis maintenant est par la foi du Fils de Dieu, pourtant ce n'est pas moi, mais Christ qui vit en moi, a dit l'apôtre. Et tous ceux qui marchent dans la foi des élus de Dieu, qui est la victoire sur le diable, marchent dans l'unité au-dessus de l'inimitié. Et le vrai culte a été perdu depuis les jours des apôtres. Oui, le culte que Christ a établi il y a plus de 1600 ans, en esprit et en vérité, oui, dans l'esprit de Dieu, qui était avant que l'esprit du diable fût, lui qui est hors de la vérité, et dans la vérité dont le diable est hors. Dans cet esprit et dans cette vérité Dieu qui est esprit, et le Dieu de vérité cherche que les hommes l'adorent en vérité, ainsi tout homme et toute femme doivent venir à la vérité dans les parties intérieures, et à l'Esprit de Dieu en eux-mêmes, s'ils doivent être des adorateurs de Dieu en esprit et en vérité, ce en quoi le diable n'a pas demeuré. Et c'est là le culte stable et parfait, dans lequel il y a unité dans la vérité, car l'inimitié en est hors, et il ne peut y entrer. Gloire à Dieu à jamais, et les hommes qui se sont écartés du culte que Christ a établi il y a plus de 1600 ans, se sont éloignés de la vérité au-dedans et de l'Esprit de Dieu. Et ils ont adoré des images par cet esprit impur, ils ont adoré l'œuvre de leurs propres mains, ils ont adoré le dragon, ils ont adoré la bête, ils ont adoré la créature, ils ont adoré les anges, ils se sont persécutés les uns les autres au sujet de leur culte, et ils ont persécuté les vrais adorateurs. Ceux-là sont dans un zèle aveugle, eux qui ont haï la lumière. Ainsi nul ne peut adorer Dieu, qui est esprit, à moins de venir à la vérité dans ses parties intérieures, et à l'esprit de Dieu en soi-même. Par cet esprit ils doivent savoir que Dieu est esprit, et l'adorer en esprit. Ils doivent savoir que Dieu est le Dieu de vérité, et alors l'adorer en vérité, ce dont le diable est hors, dans l'inimitié un adversaire. Et c'est là le culte stable, parfait, infaillible, que Christ Jésus, l'homme parfait et infaillible, a établi il y a plus de 1600 ans. Et la vraie voie a été perdue depuis les jours des apôtres, celle que Christ a établie il y a plus de 1600 ans, lui qui a dit « Je suis le chemin vers le Père, et nul ne vient au Père que par moi ». Ainsi, nul ne sort du vieil Adam, sinon par Christ, le second Adam. Nul ne sort des ténèbres, sinon par Christ, la lumière, nul ne sort de la mort, ni de dessous le prince de la mort, sa puissance, sinon par Christ, la vie. Ainsi il est le chemin vers Dieu. Nul ne sort de l'injustice, sinon par Christ, la justice, nul ne sort de la sagesse d'en bas, sinon par Christ qui est la sagesse de Dieu qui vient d'en haut. Et nul ne sort de l'erreur et du mal, sinon par Christ, la vérité. Ainsi il est la porte et le chemin vers Dieu Tout-Puissant. Et nul ne vient au Père sinon par lui. Nul ne sort de la captivité ou de la prison, sinon par Christ, l'homme céleste. Et ainsi, s'étant écartés du Christ, le chemin, ils ont établi tant de chemins dans la chrétienté parmi eux, et ils se crêlent au sujet de leur chemin les uns avec les autres, l'inimitié étant parmi eux. Or Christ est le chemin, sur lequel l'impur ne peut marcher, lui qui était avant que le chemin impur fût, car il est au-dessus de tous les impurs, et il est au-dessus de toutes les voies perverses et tortueuses, et des voies montagneuses, et des voies mauvaises, injustes et impies, il est au-dessus de toutes. Et nul ne vient à ce chemin nouveau et vivant, Christ Jésus, sinon ceux qui viennent à la grâce de Dieu dans leur cœur, à l'Esprit de Dieu dans leur cœur. Ainsi, il est le chemin nouveau et vivant, lui qui est le premier et le dernier, le commencement et la fin, établi d'éternité en éternité. Et tous ceux qui sont hors de ce chemin nouveau et vivant, quand bien même ils auraient toutes les Écritures, du commencement de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Ils sont néanmoins morts et sous la puissance de la mort, laquelle Christ, le chemin, détruit par la mort, oui, la puissance de la mort, le diable, et il était avant la mort et avant que sa puissance fût. Voici le chemin nouveau et vivant. Et la vraie religion a été perdue, et l'on s'en est écarté depuis les jours des apôtres. La religion qui est pure d'en haut, et sans tache devant Dieu, qui préserve des souillures du monde, et qui consiste à visiter les veuves et les orphelins. Or ceux qui sont hors de cette religion ont fait beaucoup de religions, mais elles sont souillées et défaites, et ils exaltent un corps de mort, et le péché, et l'imperfection jusqu'à la tombe, et un purgatoire quand ils sont morts. Et leurs veuves, leurs orphelins et les étrangers vont mendier de rue en rue et le long de leur route, ainsi leur rue et leur route les jugent, et leur corps de mort et leur purgatoire manifestent leurs erreurs et leur ignorance au sujet de cette religion pure, qui descend d'en haut, qui n'est pas de fabrication humaine, mais qui descend de Dieu, qui est pure devant Dieu, et sans tache à ses yeux, qui préserve des souillures du monde. Remarque, les souillures, et ceux-ci n'exaltent pas un corps de mort, ni un purgatoire quand ils sont morts, ils sont préservés des souillures de ce monde. Ainsi ceux-là ont grandement dégénéré de cette religion pure d'en haut, qui est sans tache devant Dieu, qui préserve des souillures de ce monde, et conduit à visiter les orphelins, les veuves et les étrangers, dont la religion est qu'ils doivent avoir un corps de péché et de mort jusqu'à la tombe, et un purgatoire quand ils sont morts. Et leurs orphelins, leurs veuves et les étrangers doivent aller mendier dans les rues. Toutes ces religions viennent d'en bas, sont de leur propre fabrication, et non d'en haut, mais de celui qui est hors de la vérité. Et tous ceux qui viennent à cette religion pure qui vient d'en haut, et qui viennent à la recevoir, cela doit être par l'Esprit de Dieu au-dedans, et la lumière du Christ au-dedans, et sa grâce au-dedans, et sa foi au-dedans. Et l'image de Dieu en eux, dans laquelle l'homme et la femme furent renouvelés par Christ, a été perdue depuis les jours des apôtres, c'est pourquoi ils ont établi tant d'inventions de leur propre cerveau, et des images extérieures, et des ressemblances, et ils les adorent, car l'homme et la femme étaient à l'image de Dieu avant leur chute. Et quand ils sont tombés de l'image de Dieu, ils ont établi beaucoup d'images de Dieu, et de l'homme, et d'autres créatures, des choses du ciel et des choses de la terre. Et quand Christ est venu, il a renouvelé l'homme dans l'image de Dieu, et dans sa ressemblance, mais depuis les jours des apôtres ils ont perdu cette image de Dieu et cette ressemblance, et ils ont fait profession du Christ et des paroles des apôtres, comme les Juifs de la loi, et ils ont adoré l'œuvre de leurs propres mains et des images. Mais maintenant Christ renouvelle de nouveau l'homme dans l'image de Dieu, comme il l'était au jour des apôtres, oui, je dis aussi qu'Adam et Ève y étaient avant leur chute. Oui, et dans cette image de Dieu ils régneront sur toutes les images et les faiseurs d'images, soit de la main soit du cerveau, car ils ont fait ces images et ces ressemblances par l'esprit mauvais, qui est hors de la vérité, duquel l'esprit de vérité conduit hors et au-dessus, et loin de leurs œuvres. Gloire à Dieu à jamais, car son image et sa ressemblance sont atteintes par Christ Jésus, et dans l'état d'Adam et d'Ève avant leur chute, et non seulement dans cet état, mais en Christ Jésus qui n'est jamais tombé. Et la vraie prière a été perdue depuis les jours des apôtres, car nul ne peut prier véritablement, sinon par l'Esprit de Dieu, à Dieu qui est esprit, ou à Christ qui est un esprit vivifiant. Et tous ceux qui se sont égarés de l'Esprit ne peuvent supporter d'en entendre parler. Et pourtant ils peuvent avoir l'écriture de la Genèse à l'Apocalypse, faire des prières, les réciter, et les donner à d'autres pour les réciter, et ainsi prier par le livre, et cela doit aider leur infirmité, et ainsi ils se sont égarés de l'Esprit et de la vraie doctrine des apôtres, qui disaient que l'Esprit doit aider leurs infirmités, et qu'ils doivent prier dans l'Esprit. Ainsi tous ceux qui attristent, irritent et éteignent l'Esprit de Dieu ne peuvent prier en lui Dieu, qui est Esprit, mais ils pensent à être exaucés à cause de leurs longues redites, ils demandent et prient, mais ne reçoivent pas. Et chacun doit venir à l'Esprit de Dieu en lui-même, et à la lumière, et à la foi qui purifie son cœur, et à l'Esprit de grâce et de supplication, et par cela son esprit doit être tourné vers Christ, qui prie Dieu, et demande au nom de Jésus, et dans la puissance, la lumière et l'Esprit du Christ. Et la vraie communion a été perdue, ainsi que la sanctification, la croyance et la justice depuis les jours des apôtres. Car beaucoup ont eu la lettre, mais ont perdu la vie, la croyance, mais ont perdu la possession, la profession, mais ont perdu la substance, Christ Jésus. Mais la vraie communion est dans l'Évangile, la puissance de Dieu, qui était avant que le diable fût. Et depuis que les hommes ont perdu cette puissance de Dieu, ils n'ont pas connu les Écritures correctement, mais ils ont établi des communions par cet esprit qui vient de celui qui est hors de la vérité, et ils se sont détruits les uns les autres, et ont persécuté ceux qui sont dans la puissance de Dieu, qui est l'Évangile, qui était avant le diable, et avant toutes les communions du vieil Adam, et qui sera quand elles auront toutes disparu. La communion de l'Évangile est une communion parfaite, pure et sainte, c'est une communion éternelle, car la puissance de Dieu est éternelle, Elle est au-dessus de la communion des Juifs dans les choses extérieures et des communions inventées des gentils et des communions du pain, de l'eau et du vin. Car celles-ci ne sont point des mystères. La communion du monde n'est point un mystère. La communion du pain, de l'eau et du vin n'est point un mystère. Mais la communion de l'Évangile est un mystère et nul ne la voit sinon ceux qui viennent. Car c'est une communion stable, l'Évangile, la puissance de Dieu, et toutes les communions hors d'elles sont imparfaites et corrompues, là où l'on plaide pour le corps de mort et le péché et leur purgatoire, lesquelles communions d'en bas, les hommes les font, et elles sont des hommes et viennent des hommes, mais l'Évangile n'est pas des hommes, ni par les hommes, mais de Dieu et de Christ. Ainsi cette communion est la communion de l'Église qui est en Dieu, et la communion de l'Évangile est une communion pure, laquelle apporte à la lumière la vie et l'immortalité, et chasse tout ce qui obscurcit, accable et charge l'âme, l'esprit, l'entendement et le cœur. Voilà donc une bonne nouvelle pour l'âme immortelle, qui, par la puissance immortelle, monte jusqu'au Dieu immortel, où la vie et l'immortalité viennent à la lumière et brillent sur celui qui les a obscurcis. Ici est la liberté pour l'âme, l'entendement et l'esprit immortel dans l'Évangile, la puissance de Dieu, qui est la communion de l'Évangile, qui est un mystère mais servitude et ténèbres pour l'autre. Ainsi la vie et l'immortalité sont cachées à tous ceux qui établissent des communions d'en bas, et qui ont leur communion par des hommes et d'hommes, qui sont hors de la puissance de Dieu, l'Évangile, et font des communions d'anciens auteurs et des communions des Écritures. Mais s'étant égarés loin de l'Esprit, ils ne connaissent ni les Écritures, ni la puissance de Dieu, et là ils sont dans la crêle et l'inimitié dans leur communion, se disputant à propos de leur pain et de leur vin, les uns le prenant d'une manière, les autres d'une autre, et se disputant à propos de leurs ouvrages de main, et s'arrachant les gens les uns aux autres pour les attirer à eux-mêmes, et non à Christ, ni à sa communion de l'Évangile, qui n'est pas venue par des hommes, ni n'était d'hommes. Ainsi ceux qui nient la révélation ne peuvent prêcher Christ tant qu'il n'est pas révélé, ni prêcher l'Évangile tant qu'il n'est pas révélé. Et ceux qui disent que les révélations ont cessé pourraient tout aussi bien dire qu'il n'y a pas d'Évangile, et ainsi n'ont pas de Christ à prêcher, et ne sont que des ministres de la lettre, ils n'ont pas non plus les secrets de Dieu à prêcher, lesquels sont révélés à ceux qui le craignent. Et c'est l'esprit de ténèbres, venant du prince des ténèbres, qui est hors de la communion de l'Évangile, où est l'inimitié, laquelle se fait assez connaître au dehors parmi toutes leurs communions, et il ne peut entrer dans cette communion de l'Évangile, la puissance de Dieu, qui était avant que le diable fût. Et la justice s'est perdue depuis les jours des apôtres, c'est pourquoi on a trouvé les gens dans leur propre justice et dans leur injustice, et c'est pourquoi on les trouve tous hors de paix avec Dieu, et avec Christ, et les uns avec les autres, car là où il y a justice, il y a paix. Et la sanctification s'est perdue depuis les jours des apôtres, c'est pourquoi tant les maîtres que les auditeurs se trouvent dans l'impureté, et prêchent le corps de mort, et le péché, et un purgatoire, et ainsi ont abandonné celui qui devait les sanctifier et les rendre purs. Et la foi sanctifiante s'est perdue depuis les jours des apôtres, car celui qui croit est né de Dieu, et celui qui croit en la lumière peut devenir enfant de la lumière, chacun venant au monde est éclairé par Christ, afin qu'il croit en la lumière comme il le leur commande, et devienne ainsi enfant de la lumière, et celui qui croit vainque le monde. Et s'il n'y a point de victoire de ce côté de la tombe, comme les prédicateurs du monde, faits par des hommes, le disent, alors il n'y a point de vraie foi de ce côté de la tombe, et par conséquent le monde n'est pas vaincu en eux, et celui qui est leur Dieu est aussi du monde. Car celui qui croit vainque le monde, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ainsi le plus grand vainque le moindre, et celui qui croit pas sort de la mort et du péché qui amène la mort, et du diable, la puissance de la mort, et devient ainsi enfant de la lumière et du jour, et de la lumière qui était avant que les ténèbres fussent ou leur prince, car telle est la foi qui vainque le monde, laquelle sanctifie le mari incrédule et la femme incrédule, autrement leurs enfants seraient impurs, mais maintenant ils sont purs. Un corset de 14. Astérisque, car cette foi est plus grande que celui qui est du monde, et elle vainque celui qui voudrait souiller, car cette foi est Christ qui fait passer de la mort à la vie, elle ôte la racine du péché et de l'iniquité, dont il est fait plainte dans les Écritures dans lesquelles ils sont nés bien qu'ils usent la loi, qui ne rendait rien parfait et qui ne saisissait que leurs actions extérieures ou leurs branches. Mais cette foi rend la racine sainte, et si la racine est sainte, les branches qui jaillissent de la racine seront saintes aussi. Astérisque, les protestants du XVIe siècle croyaient être justes, sauvés et justifiés par leur foi en Jésus, mais ils niaient être sanctifiés, rendus saints, prétendant que la sanctification était impossible sur la terre. Fox se sert de l'écriture concernant l'époux croyant sanctifiant l'autre moitié et les enfants pour prouver que la sanctification était possible sur la terre. Mais il ne dit pas que croire en Jésus rendait immédiatement le croyant saint. Seuls les croyants deviennent saints, seuls les croyants persévérants deviennent saints, seuls les obéissants sont des croyants, seuls les chercheurs sont des croyants, ce genre de croyant est sauvé, purifié, justifié et sanctifié, tout en étant sur la terre. Les protestants du XIe siècle ne se privent pas de prétendre à la sainteté instantanée. Et vous tous qui prêchez un corps de péché et d'iniquité, et que vous devez avoir un corps de péché et de mort jusqu'à la tombe, et un purgatoire quand vous êtes mort. Ni homme ni femme d'entre vous ne croit correctement, car la femme croyante sanctifie le mari incrédule, et le mari croyant sanctifie la femme incrédule, autrement leurs enfants seraient impurs, mais maintenant ils sont saints. Ainsi vous vous êtes tous égarés loin de cette foi sanctifiante depuis les jours des apôtres, mais vous avez fait des croyances et des credos à vous, et puis dites qu'il n'y a point de victoire de ce côté de la tombe. Vous pourriez tout aussi bien dire qu'il n'y a point de vraie foi. George Fox, lettre 230. Amis, tenez-vous tranquilles et voyez, demeurez tranquilles et entendez, asseyez-vous aux pieds de Jésus, et choisissez la meilleure part, faire l'œuvre de Dieu, c'est croire en son Fils Jésus-Christ, la lumière, et votre espérance et votre foi sont de demeurer en Dieu et en son Fils, de marcher par cette foi dont il est l'auteur, et de marcher dans la lumière, et de marcher dans l'Esprit. Comme chacun a reçu Christ, ainsi marchez en lui, et ainsi servez Dieu dans l'Esprit, et adorez-le en esprit et en vérité, car Dieu n'est pas adoré hors de l'esprit et de la vérité. Le lait des petits est de la parole, et leur pain vient d'en haut, et il n'y a point de vraie religion que celle qui est pure d'en haut, et le peuple posé et patient demeure dans sa propre maison, mais la prostituée court au dehors, et il n'y a point de vraie église sinon là où Christ exerce ses offices en eux et parmi eux, et où ils interrogent leur épouse à la maison, et il est leur tête, et le vrai mariage avec Christ, l'homme céleste, est attesté par ceux qui sont chairs de sa chair et os de ses os. Nul ne devient enfant de la lumière, sinon ceux qui croient en la lumière. Nul fils de Dieu, sinon en recevant Christ et en étant conduit par son esprit. Nul n'entre dans toute la vérité, sinon en étant conduit par l'esprit de vérité. Nul ne court la vraie course dans le chemin droit pour obtenir la couronne glorieuse, sinon avec patience. Nulle purification, sinon en venant à Christ, l'espérance de la gloire, le purificateur. Et nulle victoire, sinon en croyant en Christ, la lumière, et celui qui le fait. Et il n'y a point de vrai témoignage au-dedans sinon la lumière, la vie et l'esprit de Christ, le vrai témoignage. Nulle vraie foi sinon celle dont Christ est l'auteur, qui donne la victoire, nulle vraie ancre pour l'âme immortelle sinon par Christ, l'espérance de la gloire. C'est par l'espérance que vous êtes sauvés, nulle vraie liberté sinon en Christ, et dans sa loi de l'esprit de vie, et dans son évangile, nulle vraie connaissance de Dieu sinon par sa lumière et son esprit dans le cœur, nul salut sinon par le nom de Jésus, nulle vraie prière sinon dans l'esprit, nul vrai chant sinon dans l'esprit, nul vrai jeûne sinon celui qui rompt les liens de la méchanceté, nulle vraie communion sinon dans la foi pure, la lumière, l'esprit et l'évangile de Dieu et de Christ, nulle vraie fond. George Fox, lettre 306. Ne devenez pas stérile, mais en demeurant dans la racine, vous pousserez vers le haut et porterez beaucoup de fruits en cette vie, et dans la vie à venir vous hériterez la vie éternelle, et ainsi vos vies étant cachées avec Christ en Dieu, vous serez rendus conformes à son image, et connaîtrez la puissance de sa résurrection, et la communion avec lui dans ses souffrances, et la communion avec lui dans sa mort, afin que vous puissiez avoir communion avec lui dans sa résurrection et sa vie, et comme vous avez pas. Et comme vos vases ont été pleins de colère et de déshonneur, ainsi vos vases pourront être pleins de ses miséricordes et de louanges à Dieu, et comme dans votre ancienne terre a habité l'injustice, ainsi vous pourrez voir et connaître la nouvelle terre dans laquelle habite la justice. Il est une croyance dont Dieu n'est pas l'auteur, car ceux-là n'ont pas en eux-mêmes le témoignage de ce qu'ils croient, et une croyance peut être de Dieu et de Christ et des Écritures, et pourtant elles peuvent être dans la mort, car ils ne sont pas en Christ la lumière, et ne sont donc pas enfants de la lumière. Il est une foi dont Christ n'est pas l'auteur, et cette foi ne donne pas la victoire, ni ne purifie le cœur, ils ne plaisent point à Dieu, ni n'ont accès à Dieu par elle, et c'est la foi morte qui n'a point d'œuvre. Et il est une espérance qui ne purifie pas, et cette espérance est celle qui n'est pas de Christ, qui sauve et purifie, comme il est pur, mais cette espérance est l'espérance des hypocrites. Et il est un chemin qui peut être souillé, où passent tous les loups, les chiens, les bêtes et les impurs, et qui a beaucoup de voies tournantes, et beaucoup de voies tortueuses, rudes et montagneuses, et il y a la voie large qui mène à la destruction, et ce ne sont pas là le chemin de Christ qui mène à la vie, lequel est le chemin étroit et resserré. Il y a dans le monde beaucoup de noms par lesquels il n'y a point de salut, la bête a beaucoup de noms, après lesquels tout le monde s'émerveille, et reçoit la marque de la bête dont elle les marque, son esprit et sa puissance bestiaux qu'elle tient du dragon, mais il n'y a qu'un seul nom sous tout le ciel par lequel les hommes seront sauvés, et c'est le nom de Jésus. Et eux se rassemblant en son nom par qui le monde a été fait, et recevant dans leur front le nom et la marque de leur Père, le Seigneur Dieu Tout-Puissant Christ est au milieu d'eux. Le monde beaucoup de religions, toutes maculées et souillées par l'esprit du monde, par lequel elles se détruisent l'une l'autre, mais il n'y a qu'une seule religion pure d'en haut, qui est sans souillure aux yeux de Dieu, et qui préserve des tâches du monde, et qui conduit à visiter la veuve et l'orphelin dans leur affliction. Et ceux qui reçoivent cette religion pure de Dieu qui est au-dessus, la reçoivent par l'esprit de Dieu dont le fruit est l'amour, et cette religion pure et sans souillure venant de Dieu à la gloire dans tous les cœurs de ceux qui la reçoivent. Et il n'y a qu'un seul vrai culte, duquel le diable est exclu, ainsi que son esprit impur, et dans lequel il ne peut entrer. Ce culte est en esprit et en vérité que Christ, l'homme céleste, a établi il y a plus de 1600 ans. Et tous ceux qui viennent dans l'esprit et dans la vérité sont les vrais adorateurs du Dieu de vérité, qui est esprit. Et tous ceux qui ne sont pas dans l'esprit et la vérité sont dans le culte de la bête hors de l'esprit de Dieu et sous sa colère, sous la puissance du dragon. Et il y a beaucoup d'instructeurs qui font errer les gens, Mais il n'y a qu'un seul esprit de vérité, qui conduit dans toute la vérité, et c'est cet unique esprit qui a conduit les prophètes et les apôtres à produire les Écritures, et tous les instructeurs qui en sont hors font errer les gens loin de l'esprit dans lequel étaient les prophètes et les apôtres, et ainsi ils sont dans la confusion. Et il y a un seul guide, Christ Jésus, que Dieu a donné, et tous ceux qui ne sont pas conduits par lui sont conduits dans le fossé, le lieu de corruption, et ils leur disent qu'il n'y a point de perfection ici. Et tous les savants dans les langues confuses de Babel, qui ont la lettre des Écritures, suivent pourtant leur propre esprit ne voient pas, et la divination de leur propre cerveau, et usent de leur langue, cela rebaptise Babylone n'étant pas dans l'esprit où étaient les prophètes et les apôtres. Et ils ne connaissent ni la langue des savants, ni les Écritures de Christ, ni celles des prophètes et des apôtres, mais elles sont pour eux comme un livre scellé. Et c'est pourquoi ils s'emportent et se disputent sur leur sens, enseignant à leur peuple, par leur exemple. George Fox à la princesse Elizabeth de Hollande. Princesse Elizabeth, j'ai entendu parler de votre tendresse envers le Seigneur et sa sainte vérité, par quelques amis qui vous ont visité, et aussi par quelques-unes de vos lettres que j'ai vues. Ce qui est en vérité une grande chose, qu'une personne de votre rang ait un esprit si tendre après le Seigneur et sa précieuse vérité, puisque tant d'autres sont engloutis dans le luxe et les plaisirs de ce monde. Cependant tous font, d'une manière ou d'une autre, une profession extérieure de Dieu et de Christ, mais sans aucun sens ni sentiment intérieur profond de lui. Car il n'y en a pas beaucoup, parmi les puissants ou les sages du monde, qui puissent devenir fous à cause de Christ, ou s'abaisser dans l'humilité de Jésus-Christ depuis leur état élevé, par quoi ils pourraient recevoir un état plus élevé, et un royaume plus élevé, par le Saint-Esprit intérieur, la lumière et la puissance divine de Dieu. Et une sagesse plus élevée, qui vient d'en haut, pure et paisible, laquelle sagesse est au-dessus de ce qui est en bas, terrestre, sensuel et diabolique, par laquelle les hommes se détruisent les uns les autres à propos de leur religion, voie, culte et église, mais cela ne vient ni de Dieu ni de Christ. La sagesse qui vient d'en haut, par laquelle toutes choses ont été faites et créées, dont la crainte sainte de Dieu dans le cœur est le commencement, garde le cœur pur. Par cette sagesse tous les enfants de Dieu doivent être gouvernés, et avec elle venir mettre toutes choses en ordre pour la gloire de Dieu. C'est cette sagesse qui est justifiée par ses enfants. Dans cette crainte de Dieu et cette sagesse, mon désir est que vous soyez préservés pour la gloire de Dieu. Car le Seigneur vient pour enseigner lui-même son peuple, et pour dresser son étendard, afin que les nations y affluent. Il y a eu une apostasie, depuis les jours des apôtres, loin de la lumière divine de Christ, qui aurait dû leur donner la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Jésus-Christ, et loin du Saint-Esprit, qui les aurait conduits dans toute la vérité. C'est pourquoi les gens ont établi tant de guides en dehors d'eux-mêmes, pour leur donner la connaissance. Ils se sont aussi éloignés de la foi sainte et précieuse dont Jésus-Christ est l'auteur et le consommateur, laquelle foi purifie le cœur et donne la victoire sur ce qui sépare d'avec Dieu. Par cette foi ils ont accès à Dieu, et dans cette foi ils plaisent à Dieu, dont le mystère est gardé dans une conscience pure. Ils se sont aussi éloignés de l'évangile qui était prêché au jour des apôtres, lequel évangile est la puissance de Dieu, qui met à la lumière la vie et l'immortalité chez l'homme et la femme, par quoi les gens auraient dû voir au-dessus du diable qui les a obscurcis, lequel évangile préservera tous ceux qui le reçoivent dans la vie et l'immortalité. Car les yeux des gens se sont portés vers les hommes, et non vers le Seigneur, qui écrit sa loi dans les cœurs et la met dans l'esprit de tous les enfants de la nouvelle alliance de lumière, de vie et de grâce, par quoi tous viennent à connaître le Seigneur, du plus petit au plus grand, afin que la connaissance du Seigneur couvre la terre comme les eaux couvrent la mer. Cette œuvre du Seigneur recommence, comme au jour des apôtres, les gens viendront à recevoir en eux une onction du Saint, par laquelle ils connaîtront toutes choses, et n'auront besoin d'aucun homme pour les instruire, mais comme l'onction les enseigne. Et aussi à connaître comment parle la justice de la foi, la parole dans le cœur et dans la bouche, pour lui obéir et la mettre en pratique. C'était la parole de la foi que les apôtres prêchaient, laquelle est maintenant reçue et prêchée de nouveau, et il est du devoir de tous les vrais chrétiens de la recevoir. Ainsi maintenant les gens sortent de l'apostasie pour venir à la lumière de Christ et à son esprit, pour recevoir la foi de lui, et non des hommes, pour recevoir l'évangile de lui, leur onction de lui, la parole. Et comme ils le reçoivent, ils le déclarent gratuitement, comme tel fut son commandement à ses disciples, et il l'est encore pour ceux qui apprennent de lui et le reçoivent. Car le Seigneur Dieu et son Fils Jésus-Christ sont venus enseigner son peuple, et le ramener de toutes les voies du monde à Christ, le chemin, la vérité et la vie, qui est le chemin vers le Père, et de tous les maîtres et parleurs du monde à lui qui est le parleur et le maître, Hébreux 10:11. Et de tous les adorateurs du monde à l'adoration de Dieu en esprit et en vérité, culte que Christ a établi il y a plus de 1600 ans, quand il a aboli le culte des Juifs au temple de Jérusalem, et le culte sur la montagne, où était le puits de Jacob. et pour ramener les gens de toutes les religions du monde, qu'ils ont faites depuis les jours des apôtres, à la religion qui fut établie par Christ et ses apôtres, qui est pure et sans souillure devant Dieu, et qui garde des tâches du monde. Et pour les faire sortir de toutes les églises et communions du monde, faites et établies depuis les jours des apôtres, pour les amener à l'Église qui est en Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, 1 Thessaloniciens 9. Et pour les conduire à l'unité et à la communion dans le Saint-Esprit, qui mortifie, circoncie et baptise, pour plonger en bas le péché et la corruption qui se sont élevés chez l'homme et la femme par la transgression. Dans ce Saint-Esprit, il y a une sainte communion et unité. Oui, c'est le lien de la paix du Prince des Princes, du Roi des Rois et Seigneur des Seigneurs, laquelle paix céleste tous les vrais chrétiens doivent maintenir avec des armes spirituelles et non charnelles. Et maintenant, mon ami, les saints hommes de Dieu ont écrit les Écritures comme ils étaient mus par le Saint-Esprit, et toute la chrétienté est en crêle au sujet de ces Écritures, parce qu'ils ne sont pas conduits par le même Saint-Esprit que ceux qui ont écrit les Écritures. Ce Saint-Esprit, ils doivent venir à lui en eux-mêmes et être conduits par lui, s'ils veulent entrer dans toute leur vérité et avoir la consolation de Dieu, de Christ et d'elle. Car nul ne peut appeler Jésus Seigneur sinon par le Saint-Esprit, et tous ceux qui appellent Christ Seigneur sans le Saint-Esprit prennent son nom en vain. De même, tous ceux qui invoquent son nom doivent se détourner de l'iniquité, alors ils nomment son nom avec révérence, en vérité et en justice. Ô donc, sentez la grâce et la vérité dans votre cœur, qui viennent par Jésus-Christ, qui vous enseignera comment vivre et quoi renoncer. Elle affermira votre cœur, donnera du sel à vos paroles, apportera votre salut, et vous servira de maître en tout temps. Par elle vous pouvez recevoir Christ, duquel elle vient, et à tous ceux qui le reçoivent, il donne pouvoir non seulement de tenir ferme contre le péché et le mal, mais de devenir fils de Dieu. Et si fil alors héritier d'une vie, et d'un monde et d'un royaume sans fin, et des richesses et trésors éternels de ce royaume. Ainsi en hâte, avec mon amour dans le Seigneur Jésus-Christ, qui a goûté la mort pour tout homme, et brise la tête du serpent qui s'était tenu entre Dieu et l'homme. Afin que par Christ l'homme puisse revenir à Dieu, et le louer par Jésus-Christ l'amène, le rocher spirituel et céleste et le fondement sur lequel tout le peuple de Dieu doit bâtir, à la louange et à la gloire de Dieu, qui est sur toute chose béni à jamais. George Fox, Amsterdam, le 7 du 6 mois, 1677. Extrait de la lettre 265 avec la translation de George Fox dans le royaume, telle qu'elle est décrite au premier chapitre de son journal, cette lettre, plus que toutes ses autres lettres, m'a convaincu que George Fox ne parlait pas comme les scribes, au contraire, il parlait et écrivait avec une autorité et une intelligence céleste, car il vivait dans le royaume, en la présence de Dieu. Vous tous qui êtes croyants, en la lumière de Christ astérisque, laquelle manifeste les ténèbres, vous êtes gardés par la puissance de Dieu jusqu'au jour du salut. Astérisque, un croyant, en la lumière de Christ croit aux avertissements anonymes de la lumière, que tout homme entend à un moment de sa vie, l'appelant à se détourner de ses mauvais comportements œuvre des ténèbres, et parce qu'il aime la vérité que la lumière lui montre, il se rappe. Ainsi, bien que votre salut ne soit pas encore achevé, vous avez pourtant votre gardien, la puissance de Dieu, qui ne sommeille ni ne dort, et qui vous gardera jusqu'à ce jour. Car ces vierges, dans la parabole, avaient leur gardien, par lequel elles furent préservées dans leur virginité, dont on ne les accusa jamais de s'être dépouillées. Car il est dit que le cri se fit à minuit, c'est-à-dire au milieu des ténèbres, car les ténèbres sont appelées nuit, et la voix de l'époux se fit entendre à minuit, « Levez-vous ». Or ceux qui n'avaient pas d'huile dans leur lampe n'entrèrent pas avec l'époux, mais ceux qui avaient de l'huile y entrèrent. Or ce qui garde, c'est la puissance de Dieu, et elle préserve pur pour lui, dans la virginité, de ce qui voudrait souiller l'esprit vierge, et l'âme et l'esprit vierge. Car tout cela vient du même homme de péché qui souille l'esprit et l'âme, et qui les entraîne au dehors pour souiller leur corps et les corrompre. C'est pourquoi tous doivent prêter attention à leur gardien, la puissance de Dieu, qui était avant que le diable, l'homme de péché, fût, par laquelle puissance de Dieu ils ont de l'huile dans leur lampe, par quoi leurs lampes peuvent toujours brûler dans leur temple, et ainsi ils viennent à être le temple de Dieu, car ceux qui souillent le temple souillent leurs âmes et leur corps, ils laissent entrer le souilleur et le destructeur. Et ainsi tous ceux qui sont gardés par la puissance du Seigneur jusqu'au jour du salut, bien que le jour du salut ne soit pas encore achevé, pourtant dans le jour du salut le peuple de Dieu est un peuple volontaire, même en ce jour de sa puissance. Et ainsi ils doivent demeurer avec leur gardien, qui est la puissance de Dieu, car tant qu'ils sont dans la nuit, et non dans le jour du salut ni dans le jour de puissance, bien qu'ils puissent être dans le désert des tentations et des troubles, ils peuvent toutefois sentir la puissance, le gardien, les conduire à travers toutes ces choses, hors d'Égypte, à travers la mer Rouge, à travers le désert, à travers le Jourdain, le fleuve du jugement et au-dessus des Cananéens, et par conséquent la foi de chacun doit demeurer dans la puissance de Dieu. Vous êtes gardés par la puissance de Dieu pour atteindre le jour du salut, pourvu que vous demeuriez sur la croix intérieure du renoncement à vous-même dans le chemin étroit car le juif extérieur n'est pas entré, à cause de l'incrédulité, et ainsi ce grand homme de péché, immonde, a souillé toute l'humanité, extérieurement et intérieurement. C'est pourquoi tous doivent faire tenir leur foi dans la puissance de Dieu, leur gardien, car la souillure est dans la nuit, par la puissance des ténèbres et par elle. Que votre foi donc se tienne dans la puissance de Dieu, votre gardien, qui gardera le corps, l'âme et l'esprit, pur et irréprochable jusqu'au jour de la rédemption et au jour du salut. Et par la puissance de Dieu, ceux-là auront domination sur l'homme de péché immonde, le diable, car c'est lui dans les gens qui entraînent et tentent à la souillure extérieure de leur corps, et ainsi à perdre leur virginité. Et c'est lui qui détourne leurs esprits de Dieu et du Christ, et des voies de Dieu et de son culte et de sa vérité et de son esprit. Donc, si votre foi se tient dans la puissance de Dieu, tout est préservé par elle, corps, âme et esprit, dans la pureté, avec un esprit, une âme et un esprit caché, secret pour le Seigneur, qui est esprit, et ils sont préservés par sa puissance, leur gardien. Car comme le disent certains du monde, qui sont les plus modestes, ils garderont leur virginité extérieure jusqu'au jour de leur mort, ou de leur mariage. Mais ceux dont il a été parlé plus haut, qui n'ont aucune estime de leur corps, pas plus que des bêtes indomptées, livrent leur corps à l'impureté, et se livrent à pratiquer la méchanceté, et ainsi abandonnent leur gardien, la puissance de Dieu, qui devrait garder à la fois intérieurement et extérieurement. Et ainsi tous les esprits, âmes et pensées vierges intérieures, qui sont cachés au Seigneur, mourront plutôt que de perdre leur virginité intérieure, mais la garderont jusqu'aux noces de l'agneau, comme les vierges sages l'ont fait. Par cette puissance ils sont préservés au-dessus de l'homme de péché, dont le Christ, leur époux, écrase la tête et le détruit, lui et ses œuvres. Car le Christ était avant que l'homme de péché fût le diable, ou ses œuvres, lui qui était glorifié avec le Père avant que le monde fût, et par conséquent toutes ces vierges qui sont venues au Christ et lui sont mariées, le Christ, votre époux, traitera avec l'homme de péché immonde, lui écrasera la tête, brisera en morceaux sa puissance et sa force, et le saisira pour le jeter dans le feu éternel. Gardez donc votre foi dans la puissance de Dieu, qui vous conduira aux noces de l'agneau. Par cette puissance de Dieu qui était avant que le diable fût, vous avez de l'huile dans vos lampes, afin que vos lampes brûlent toujours. Par cette puissance de Dieu vous pouvez venir au jour de la puissance de Dieu, et tous être un peuple volontaire pour servir Dieu, marcher dans la vérité et lui obéir. Et ainsi par la même puissance de Dieu qui est votre gardien, vous pouvez venir au jour du salut. Vous pouvez avoir le cantique du salut, et la joie. Et ainsi voici votre gardien, c'est-à-dire la puissance de Dieu. Et les paroles de Pierre répondent à ceci. Vous avez la parole prophétique plus ferme, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne à poindre et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs, Pie 1:19 signifiant qu'elle est suffisante, et que vous devez y prendre garde. Elle vous conduira au jour qui se lève, la lumière qui brille dans le lieu obscur de vos cœurs, dans le lieu obscur de vos pensées. Maintenant vous faites bien de prendre garde à cette lumière, car elle vous mène à l'étoile du matin et à l'aube du jour. D'Égypte j'ai appelé mon fils, dit le Seigneur, et Israël fut appelé fils de Dieu, lui qui fut appelé hors de la maison des ténèbres et de la servitude, ils avaient de la lumière à Goshen, quand les enfants d'Égypte étaient dans les ténèbres et ne pouvaient se voir les uns les autres. Car maintenant les enfants de la lumière ont la lumière et peuvent se voir les uns les autres, les enfants d'Égypte, de Sodome et de Babylone ne peuvent se voir les uns les autres. Ainsi ceux qui prennent garde à la lumière font bien, mais ceux qui ne prennent pas garde à la lumière font mal, car ils marchent dans les ténèbres, ne savent où ils vont, et trébuchent à midi, au moment de la plus grande lumière. Car cette lumière conduit à l'aube du jour et à l'étoile du matin qui se lève dans leur cœur, ce qui est une parole sûre de prophétie. Un prophète est un voyant, et ainsi, avec la lumière il verra, ce qui manifeste est lumière, par elle vous verrez le jour poindre et l'étoile du matin se lever, et quand celle-ci se lève, les fils de Dieu chantent ensemble à cause du jour joyeux, et les saints chantent, eux qui ont longtemps été dans le désert épineux et broussailleux, et dans la maison de servitude, de ténèbres et de troubles, de chagrin et de misère. Il y a donc de la joie quand l'étoile du matin paraît et que le jour se lève, il y a grande raison de joie pour tous les fils de Dieu lorsque l'étoile du matin paraît, et pour qu'ils chantent ensemble, car de longues nuits de troubles et de labeur ils ont traversé. Le sentier des justes est une lumière resplendissante, PR 4:18, le sentier des injustes est ténèbres. Ainsi il n'y a que deux sentiers. Or l'injuste ne peut supporter d'entendre parler de la lumière, mais l'appel naturel, est créé fait ou conscience, ils ne savent comment l'appeler, eux dont les ténèbres ne peuvent comprendre la lumière bien qu'elle brille dans les ténèbres. Et ainsi le sentier du juste étant une lumière resplendissante, qui brille de plus en plus jusqu'au jour parfait, signifiant que le jour est venu, que le juste a son sentier, et que son sentier est une lumière resplendissante, et ainsi elle croit, brille de plus en plus jusqu'au jour parfait. Or les injustes, étant dans les ténèbres, haïssent la lumière et aiment les ténèbres plutôt que la lumière, et ils haïssent le sentier du juste, la lumière, parce que leurs œuvres sont mauvaises, car la lumière les reprendra. Jean 3, 19-21 Ainsi le sentier du juste est suffisant, une lumière resplendissante, car elle brille de plus en plus, elle croit, elle est suffisante et conduit au jour parfait. Or les injustes, dont le sentier est ténèbres, disent « ce n'est pas suffisant, mais ceux-là ne peuvent supporter la lumière, ne peuvent supporter le sentier du juste, ni le juste non plus », mais ils haïssent les deux et parlent contre lui et son sentier avec leurs ténèbres qui ne peuvent comprendre la lumière, bien que la lumière brille dans leurs ténèbres, et donc, s'ils ne peuvent comprendre la lumière avec leurs ténèbres, comment pourraient-ils comprendre les paroles des prophètes, des apôtres et du Christ ? Ils appellent la lumière ténèbres, et les ténèbres lumière, et l'appellent naturel, ou créé, ou fait, ou conscience, et ainsi cela s'accomplit sur eux, comme Jean 1:5 l'a dit, avec leurs ténèbres ils ne pouvaient comprendre la lumière, et pourtant ils parlaient des paroles des saints de la loi et des prophètes avec leurs ténèbres, qui ne pouvaient comprendre la lumière. Ils appelleraient la lumière ténèbres, dit le Christ, si la lumière qui est en toi est ténèbres, combien grandes sont ces ténèbres ? Matthieu 6:23, vous ne connaissez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Matthieu 22:29, comment connaîtraient-ils les Écritures ou la puissance de Dieu, eux dont les ténèbres ne comprennent pas la lumière ? Un homme dans les ténèbres est un homme aveugle. Un aveugle n'a pas de vrai jugement. Comment donc l'appelleraient-ils autrement qu'une lumière naturelle, une lumière créée ou faite ? Ainsi les pharisiens croyaient que le Christ devait venir, et prêchaient qu'il devait venir, comme les protestants et les papistes le prêchent, qu'il est venu et qu'il doit venir, et ils peuvent dire par l'Écriture où il fut crucifié, comme les Juifs pouvaient dire par l'Écriture où il devait naître. Mais ils étaient tous contre le Christ, la lumière. Quand il vint, ils dirent, « Le Christ a un démon. » Les pharisiens dirent de lui, qui était lumière, qu'il était le prince des démons, lui qui était la lumière, la vérité et la vie, et qu'il était le fils du charpentier. Ainsi, sans la lumière, ils ne pouvaient le voir, ni ses œuvres, avec leurs ténèbres, ils ne le peuvent pas davantage maintenant, et ils ne peuvent connaître ni les Écritures ni la puissance de Dieu, eux dont les ténèbres ne peuvent comprendre la lumière. Et Jean était un homme envoyé de Dieu, le plus grand prophète né d'une femme, qui vint pour rendre témoignage à la vraie lumière, qui éclaire tout homme venant dans le monde, afin que tous croient par lui, et il est dit en Jean 1:4, « En Christ était la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Ainsi la vie qui est en Christ est la lumière des hommes. » C'est donc une lumière céleste, une lumière divine, une lumière spirituelle, une lumière salvatrice, qui est la vie du Christ, qui est la lumière des hommes, bien que les docteurs de son temps, et de ces temps-ci papistes et protestants avec leurs ténèbres, ne puissent comprendre la lumière, et donc pas la vie, et ainsi, pas de vrai prédicateur du Christ sans la lumière et la vie. Jean dit qu'il n'était pas la lumière, mais qu'il était envoyé pour rendre témoignage à la lumière, qu'il n'était pas digne de délier la courroie des souliers du Christ. Et pourtant Jean, qui avait vu le Christ, l'agneau de Dieu, qui ôte les péchés du monde, le montra à ses disciples, et leur montra le Christ, et ils l'abandonnèrent et allèrent au Christ. Car Jean vint pour être témoin, pour rendre témoignage à celui qui était la vraie lumière, et que celui qui devait venir après lui était préféré à lui, car il était avant lui. Pourtant quand Jean fut jeté en prison, il se demanda si le Christ était celui-là, ou s'il devait en attendre un autre, et il envoie vers le Christ. Et le Christ répond à ses messagers et leur dit, les aveugles recouvrent la vue, et les pauvres reçoivent l'Évangile, etc. Et quant à ces papistes, protestants et juifs, ils se demandent si le Christ, la lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde, est la lumière spirituelle, divine, salvatrice et céleste. Et de plus, remarquez les propres paroles du Christ, il a dit qu'il est la lumière du monde, qui vous enseigne comment croire, c'est-à-dire tous ses disciples, comme le Christ les a enseignés, lui qui a dit « croyez en la lumière ». Or, croire en la lumière, c'est croire en ce qui rend manifeste toute chose, car ce qui rend manifeste est la lumière, et donc croire en la lumière, c'est croire en ce qui manifeste le Christ comme leur voix, leur maître, prêtre, médiateur, intercesseur, sauveur et rédempteur. Et celui qui croit en la lumière croit en ce qui manifeste toutes les fausses voix, toutes les fausses religions, tous les faux cultes, tous les faux docteurs et les antéchrists, car chez ceux qui croient en la lumière, elle manifeste toutes les voies véritables et toutes les religions véritables. Ainsi ne sont pas de vrais croyants, ni les protestants, ni les papistes, qui croient seulement que le Christ est venu, d'après l'Écriture, comme les Juifs croyaient, d'après l'Écriture, que le Christ devait venir. Mais je dis qu'ils ne sont pas de vrais croyants, à moins qu'ils ne croient aussi en la lumière, comme le Christ, l'homme céleste, l'enseigne. Car les Juifs peuvent enseigner à leur peuple à croire d'après l'Écriture, les papistes et protestants peuvent enseigner à leurs enfants à croire d'après la même. Mais ne croyant pas en la lumière, ils ne sont pas de vrais croyants, comme le Christ l'a enseigné, car le Christ, qui est le Sauveur, enseigne aux gens comment croire, et il a dit « croyez en la lumière ». Il est donc clair qu'ils ne sont pas de vrais croyants, ceux qui ne croient pas en la lumière, ni les Juifs, ni ceux qui ont pris le nom de chrétiens, car en croyant en la lumière, ils deviennent enfants de la lumière. Et ainsi il est clair, nul n'est enfant de la lumière, ni enfant du jour, sinon ceux qui croient en la lumière. Car les enfants des ténèbres peuvent professer les Écritures, le diable peut apporter les Écritures, et protestants, turcs, papistes et juifs peuvent apporter les Écritures avec un esprit de ténèbres, et les tenir dans l'injustice, Mais il n'y a pas de vrai croyant en Dieu ni en Jésus-Christ, sinon celui qui croit en la lumière, dont l'Écriture en témoignage, montrant qu'il n'y a ni salut, ni rédemption, ni justification, ni sanctification que pour ceux qui croient en la lumière qui manifeste toute chose, ni vision du Christ. Et donc l'homme céleste, le second Adam, le Seigneur Jésus-Christ, enseigne comment croire, et il a dit, « Croyez en la lumière tant que vous l'avez, et cette lumière le manifestera comme leur voix, leur vérité et leur vie. Cette lumière vient de celui qui éclaire tout homme venant dans le monde, afin que tous croient par la lumière. » Ainsi ceux qui ne croient pas en la lumière, comme le Christ l'a enseigné, ne sont ni de vrais ministres, ni de vrais messagers, ni de vrais disciples, ni de vrais chrétiens, ni de vrais prédicateurs de Jésus-Christ, eux qui ne croient pas comme il le leur a enseigné, mais ceux qui mettent de côté l'enseignement du Christ, et enseignent les uns aux autres à nier la voie que le Christ a enseignée pour croire, sont des gardiens des gens dans les ténèbres hors de la lumière, et ils l'appellent naturel, créé, fait et conscience, et ainsi avec leurs ténèbres. Ainsi le Christ, la lumière, enseigne à son peuple à croire en ce qui manifeste toutes choses, et ceux qui croient en la lumière ont en eux-mêmes le témoignage du Christ en qui ils croient. Ils ont en eux-mêmes le témoignage qu'il est leur Rédempteur et Sauveur, et leur voix, leur vérité et leur vie, car avec la lumière ils le voient, croyant en la lumière qui rend manifeste. Et après avoir cru en la lumière, ils deviennent enfants de la lumière, ils témoignent en eux-mêmes qu'ils sont scellés, car leur foi en la lumière se tient en Christ. Avec la lumière ils voient, et viennent à connaître les trois qui rendent témoignage dans le ciel, et les trois qui rendent témoignage sur la terre, l'Esprit, l'eau et le sang. Astérisque et astérisque ci-dessous, se trouvent trois événements attestants que vous devez expérimenter, que vous voyez par la lumière avec les yeux de votre cœur, au moment où ils se produisent dans votre cœur. Les trois événements abordés ci-dessous sont ceux qui se produisent lorsque vous êtes vraiment né de nouveau. L'Esprit qui rend témoignage sur la terre, qui les mortifie, qui les circoncit, qui les conduit dans toute la vérité, dans cet esprit et leur communion, et un lien de paix qui tient à baisser ce qui les trouble. Par cet esprit les croyants sont baptisés en un seul corps, tirés hors des nombreux corps, et ainsi par l'Esprit ils sont amenés au seul chef, qui est Jésus-Christ, bien qu'il y ait beaucoup de chefs dans le monde. Par cet esprit ils sont sanctifiés, par cet esprit ils sont instruits, par cet esprit ils adorent Dieu. Deuxièmement, ils viennent à connaître l'eau qui est un témoin sur la terre, par laquelle ils sont lavés, leurs pensées, leurs âmes, leurs esprits, et dans leur corps, avec cette eau pure. Et c'est un témoin sur la terre avec la lumière, pour ceux qui y croient, elle manifeste ces deux témoins sur la terre, et avec la lumière ils voient l'eau bénite contrefaite du pape, qu'il a établie depuis les jours des apôtres, et ils rendent, avec la lumière, témoignage contre elle, comme n'étant pas le témoignage de Dieu, ni établi par Dieu. Ainsi les enfants de la lumière, qui croient en la lumière, leurs corps, leurs âmes, leurs esprits et leurs pensées sont lavés et rendus nets dans cette eau pure, nette et sainte, qui vient d'en haut du Dieu pur et saint, et qui est l'un de ses témoins sur la terre. Le troisième témoin est son sang, dont les cœurs des gens sont aspergés, et leur conscience aspergée du sang de Jésus. Comme Moïse aspergea l'extérieur des poteaux, etc., du sang des taureaux et des boucs, sang des taureaux et des boucs auxquels le sang du Christ met fin, lui qui asperge le cœur et la conscience des gens. Ainsi ce sang de Jésus-Christ, l'homme céleste, est ressenti dans les cœurs et les consciences des gens, par ce sang ils sont sanctifiés, ils sont purifiés de toutes leurs œuvres mortes pour servir le Dieu vivant, et ne plus servir leurs œuvres mortes, ainsi par ce sang ils sont purifiés de tout péché. Ceux qui marchent dans la lumière et croient en la lumière sont enfants de la lumière et enfants du jour, et le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, les purifie de tout péché, et leurs vêtements sont blanchis dans le sang de l'agneau, par lequel ils viennent à rendre témoignage de Jésus, ils vainquent la bête, la prostituée, la fausse église. Ainsi tout vrai croyant croit comme le Christ le leur a enseigné, croire en la lumière, afin qu'ils puissent devenir enfants de la lumière. Ils ont ces trois témoins qui rendent témoignage sur la terre, pour rendre témoignage en eux-mêmes, et ils peuvent apposer leur sceau que Dieu est vrai en toutes ses œuvres, dans les prophètes et les apôtres, et dans son Fils, et ils viendront à connaître, et connaissent effectivement, les trois qui rendent témoignage dans le ciel, et les trois qui rendent témoignage sur la terre. George Fox, lettre 260. Tous ceux qui sont rassemblés au nom de Jésus, et rendus vivants par lui et vivifiés par lui, viennent au troupeau du Christ, et savent où ils pèsent à midi. Ils sont rassemblés dans le nom de Jésus-Christ, dont le nom est au-dessus de tout nom, et savent qu'il n'y a de salut sous tout le ciel qu'au nom de Jésus, dans le témoignage qu'ils ont de Jésus, qui est l'Esprit par lequel ils voient Jésus, et voient ses pâturages de vie, voient ses sources de vie, ses fleuves de vie, et son pain de vie, et voient les traces du troupeau. C'est pourquoi vous tous qui êtes rassemblés dans le nom de Jésus, et qui marchez dans le sentier des justes, là où sont les traces du troupeau, n'éteignez l'Esprit en personne. Et si quelqu'un ne veut pas de votre pain de vie et de votre eau de vie, qu'il jeûne, celui qui ne veut ni recevoir ni donner, car le pain de vie et l'eau de vie ne sont pas donnés seulement pour vous nourrir vous-même, mais afin que par eux vous nourrissiez d'autres et rafraîchissiez d'autres. Ayez donc du pain dans vos maisons, de l'eau dans votre propre puits, du fruit de votre propre arbre, et du sel en vous-même pour vous donner du goût les uns aux autres, afin que vous puissiez éprouver toutes choses, et ayez de l'huile dans vos propres lampes, afin qu'elle brûle dans votre propre temple, et de l'odeur et de l'encens, afin qu'il brûle continuellement sur votre propre autel, et qu'il monte comme une bonne odeur, sainte et pure, vers Dieu qui est saint et pur. Ne soyez pas déplacés hors de votre terrain, dans lequel vous pouvez croître et augmenter. Ainsi, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas la prophétie, ne haïssez pas la lumière, mais faites fructifier votre talent, ne le cachez pas, mais faites-le fructifier. Ayez en vue le royaume au-dedans, et le denier céleste, et l'Esprit de Dieu, qui vous est donné pour vous instruire, et marchez selon la règle de l'Esprit de Dieu, qu'il vous a donné à tous pour votre profit, et ayez en vue la vérité dans les parties intérieures, afin que vous soyez parés et revêtus d'un esprit doux et paisible. Car la lumière qui brille dans vos cœurs vous donnera la connaissance de la gloire de Dieu dans la face de Jésus-Christ, afin que vous connaissiez le trésor céleste dans vos vases terrestres, et que l'étoile du matin se lève, que le jour se lève dans vos propres cœurs, afin que vous deveniez des temples du Christ, lui pour demeurer avec vous, marcher avec vous et souper avec vous, et le sang du Christ pour asperger vos cœurs des œuvres mortes, et vos consciences aussi, afin que vous serviez le Dieu vivant. Sachez donc la vraie foi, qui purifie vos cœurs, dont le Christ est l'auteur et le consommateur, et la vraie espérance pour vous purifier. Ainsi, soyez de vrais croyants dans la lumière, comme le Christ le commande, et devenez enfants de la lumière, car celui qui croit a le témoignage en lui-même. Et connaissez la vraie parole dans vos cœurs et dans vos bouches, qui est la parole de la foi que l'apôtre prêchait, qui distingue vos bonnes pensées des mauvaises, et vos bonnes paroles des mauvaises, parole qui est dans vos cœurs pour être obéie et mise en pratique. Elle est comme un marteau pour abattre le péché et le mal, comme une épée pour les trancher, et comme un feu pour les consumer. Afin que par cette parole vous soyez sanctifiés, par cette parole vous ayez le salut, par cette parole vous soyez réconciliés avec Dieu, par qui toutes choses sont soutenues, par sa parole et sa puissance, par cette parole vous pouvez naître de nouveau de la semence immortelle, qui vit et demeure à jamais. Et ainsi de cette parole vous pouvez avoir votre lait, car c'est la parole implantée, capable de sauver l'âme et de relever l'âme, qui est immortelle, jusqu'au Dieu immortel. Et par cette parole vous verrez au-dessus de tous les trompeurs de vos âmes, paroles qui étaient avant qu'ils fussent. Et par cette parole vous comprendrez les Écritures de vérité, qui ne peuvent être annulées. Et par cette parole, vous en viendrez à juger tous ceux qui se sont jetés dans des imaginations au sujet des Écritures, et qui les établissent à la place de Dieu et du Christ, dans leurs imaginations ténébreuses, eux qui, dans leurs ténèbres, ne peuvent comprendre la lumière. Et par cette parole vous aurez des richesses spirituelles, hors de cette parole est la pauvreté. Et par cette parole vous viendrez à connaître la vie et le salut, car au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et le nom du Christ est appelé la parole de Dieu, et les Écritures sont les paroles qui doivent s'accomplir. Ainsi soyez tous diligents dans la vérité, afin que vous soyez féconds dans la parole de Dieu, afin qu'elle ait son libre cours à travers vous tous. George Fox de la lettre 33. Tous les amis et frères partout, attendez dans la vie et la puissance du Seigneur, et que nul ne marche en dehors d'elle, mais que vous soyez rendus manifestes à la lumière du Christ en chacun, afin que la crainte et la terreur du Seigneur soient dans tous vos cœurs, afin que rien ne règne sinon la vie elle-même. Ainsi gardez toutes vos réunions en tout lieu, attendant dans la lumière, qui vient du Christ, le Sauveur de vos âmes, afin que vous puissiez tous sentir sa présence au milieu, vous qui êtes rassemblés en son nom et en sa puissance, dans sa lumière, qui est son nom, et détournés des rassemblements du monde. Et si quelqu'un est mû, ceux qui sont tournés vers la lumière, par la puissance qui vient de lui, pour quelque service au Seigneur, obéissez-y, et vous verrez le Christ avec vous jusqu'à la fin du monde. Mais si quelqu'un part avant d'être mû, et marche ainsi hors de la lumière, il est une pierre d'achoppement, et doit être jugé et condamné par la lumière, et il est hors de la sagesse et hors de la crainte, et sème pour la chair et récolte la corruption, et est condamné par la lumière. Car cela ne répond pas à la lumière dans la conscience de chaque homme, ni n'atteint la vie, l'esprit en prison, mais cela manifeste la faiblesse, la folie et la nudité, qui viennent de la lumière et lui sont contraires, et telles sont des pierres d'achoppement, et ne répondent pas au témoignage de Dieu dans la conscience. Attendez donc tous dans la lumière, pour recevoir la puissance de celui qui n'est pas du monde, afin que vous soyez préservés de la nudité et de la faiblesse. Car ce qui sort de la lumière, et n'est pas guidé par elle, court dans la convoitise, et là est le paresseux qui doit être jugé, et ainsi cela offensera à quoi le malheur est, car cela ne répond pas à ce qui est de Dieu dans la conscience, et ce n'est ni honorable ni de bonne renommée, car ce qui est honorable et de bonne renommée répond à ce qui est de Dieu, et répond à la lumière du Christ en tout homme dans le monde avec sagesse qui vient de la lumière, même de celui par qui le monde a été fait. C'est pourquoi, amis, ceci est une charge pour vous tous, et un commandement pour vous tous en la présence du Dieu vivant, marchez dans la lumière, la vie, la puissance et la sagesse de Dieu, afin que vous soyez manifestés à ce qui est de Dieu en chacun sous le regard de Dieu, et que cela soit votre témoignage que vous êtes de Dieu, dans la conscience de chaque homme, qui rend témoignage contre le monde et pour celui qui n'est pas du monde. Et attendez tous dans la lumière la sagesse par laquelle toutes choses ont été faites, afin qu'avec elle vous usiez de toutes les créatures du Seigneur pour sa gloire, et que nul ne fasse trébucher l'autre au sujet des créatures, car cela ne vient pas de la lumière, selon la fin pour laquelle elles ont été créées, et qu'avec la sagesse par laquelle elles ont été faites, vous soyez gardés hors de leur mauvais usage, dans l'image de Dieu, afin que vous veniez à voir que la terre est au Seigneur, et tout ce qu'elle contient, et que la terre vienne à rendre. Ainsi, dans la sagesse de Dieu, vous pouvez tous être gardés, et établis dans la crainte du Seigneur et sa justice, ce qui est loin de l'oppression, où tous les liens d'iniquité sont brisés, et où le prince des ténèbres est jugé dehors, et le prince de paix règne, sous la domination duquel demeurer et marcher. Et tous ceux qui causent des disputes doivent être condamnés et exclus, eux qui ont l'œil au dehors et sont condamnés par la lumière, le Dieu de ce monde ayant aveuglé l'œil de l'incrédule. C'est pourquoi, vous qui croyez dans la lumière, attendez dans la sagesse, afin qu'avec elle et en elle vous soyez ordonnés pour la gloire de Dieu, afin que parmi vous rien ne règne sinon la lumière, la vie, la sagesse et la puissance, que la crainte et la terreur du Seigneur soient parmi vous, et que la vérité et la justice règnent, ce qui répondra à la lumière du Christ en tout homme. Et que tout ce qui est contraire soit condamné par la lumière qui vient de celui par qui le monde a été fait, qui était avant que le monde fût, qui éclaire tout homme venant dans le monde. Bien qu'il n'y croie pas, vous pouvez pourtant répondre à la lumière en chaque homme, bien qu'elle soit leur condamnation. Ainsi étant gardé dans la lumière, qui vient de celui par qui le monde a été fait, qui était avant qu'il fût fait, vous venez à recevoir la sagesse par laquelle toutes choses ont été faites, et avec elle à les ordonner et à en user pour la gloire de Dieu. Car ce qui ne vient pas de la lumière, ni de la sagesse, est l'offenseur, qui doit être condamné par la lumière qui vient de la vie. Et à cela, en vous tous, prenez garde, afin que vos cœurs soient unis à Dieu, et que tout ce qui est contraire soit condamné. Ainsi, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous préserve et vous garde tous dans la sagesse. P.S. Amis, un avertissement du Seigneur à vous tous, marchez dans la sagesse, afin que vous orniez chacun ce que vous professez, afin que vous répondiez à la mesure de l'Esprit de Dieu dans chacun. Et connaissez le Seigneur pour guider vos intelligences, et que sa sagesse soit justifiée par vous tous, et que vous soyez gardés dans l'unité, dans la mesure de l'Esprit de Dieu, afin que vous voyiez la justice jaillir et fleurir parmi vous, et qu'aucune tromperie ne tienne, ni rien de trompeur, mais avec le juge éternel, abattez-la et tenez-la abaissée, afin que rien ne vive qui soit pour l'épée, qui souillerait le pays. Demeurez donc, dans ce qui est éternel, comme un sacerdoce royal, dans ce qui vient de celui par qui le monde a été fait, lui qui est, pour toutes vos âmes, un ami, d'où vient le rafraîchissement. Ainsi que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous préserve et vous garde tous, afin que dans sa vie, sa crainte et sa puissance vous soyez préservés. George Fox après la loi et avant le Christ, les seuls gens qui recevaient la faveur de Dieu étaient ceux qui marchaient en s'efforçant de se conformer aux exigences de la loi, ceux qui ignoraient sa loi étaient délaissés par lui, Hébreux 8:9. À cause du sacrifice de Jésus sur la croix, avec seulement la foi en son nom et un humble regret du passé, nous pouvons nous approcher de Dieu et recevoir les opérations de sa grâce transformatrice pour purifier nos cœurs et nos consciences, quel que soit le fardeau de nos péchés passés. Avec la foi au nom de Jésus par la grâce et la croix, il peut maintenant vous rendre parfait dans toute bonne œuvre pour faire sa volonté, Hébreux 13, 11, un nettoyage et une perfection permanent, avec l'union qui en résulte, sont maintenant disponibles pour tous ceux qui vont à lui pour être changés. Concernant l'Église du Christ, revêtue du soleil et ayant la lune sous ses pieds. Ce sont des membres vivants, des pierres vivantes, édifiées comme une maison spirituelle, les enfants de la promesse, et de la semence et de la chair du Christ, comme l'apôtre a dit, chair de sa chair et os de ses os. Ils sont la bonne semence, les enfants du royaume éternel écrit dans les cieux, qui ont revêtu le Seigneur Jésus-Christ. Ils sont assis ensemble dans les lieux célestes en Christ, sont revêtus du soleil de justice Jésus-Christ, et ont la lune sous leurs pieds. Hébreux 12:1. Ainsi toutes les choses changeantes qui sont dans le monde, toutes les religions changeantes, les cultes changeants, les voies changeantes, les communions, les églises et les docteurs dans le monde, sont comme la lune, car la lune change, mais le soleil ne change pas. Le soleil de justice ne change jamais, ne se couche ni ne décline, mais toutes les voies, religions, cultes, communions du monde, et les docteurs qui s'y trouvent changent comme la lune. Mais la véritable Église, dont le Christ est la tête, qui est en Dieu le Père, et qui est appelée la colonne et le soutien de la vérité, dont la citoyenneté est dans les cieux, cette Église est revêtue du soleil, Jésus-Christ sa tête, qui ne change pas, et a toutes les choses changeantes sous ses pieds. Ce sont les membres vivants, nés de nouveau de la semence immortelle par la parole de Dieu, qui se nourrissent du lait immortel, et vivent et grandissent par lui. Telles sont les nouvelles créatures en Jésus-Christ, qui rend toutes choses nouvelles, et voit les vieilles choses passer. Son Église, ses membres, qui sont revêtus du soleil, leur culte est en esprit et en vérité, qui ne change pas, vérité dont le diable, l'esprit immonde et impur, est hors et ne peut entrer dans ce culte en esprit et en vérité. Leur religion est pure et sans tache devant Dieu, qui préserve des souillures du monde, et leur voie est la voie nouvelle et vivante Jésus-Christ. Ainsi l'Église du Christ, revêtue du soleil, qui a la lune et toutes les religions et voies changeantes sous ses pieds, a un culte, une religion et une voie immuable, un roc et un fondement immuable, Jésus-Christ, un souverain sacrificateur immuable, et ainsi ils sont enfants du Nouveau Testament, et dans l'alliance éternelle de lumière et de vie. Tous ceux qui professent les Écritures tant du Nouveau que de l'Ancien Testament, et qui ne sont pas en Jésus-Christ, l'apôtre leur dit qu'ils sont, réprouvés le péché vit encore en eux si Christ n'est pas en eux. Ceux qui ne sont pas en Christ ne peuvent être revêtus de Christ, le soleil de justice qui ne change jamais. Ils sont sous la lune changeante dans le monde, dans les choses changeantes, les religions changeantes, les voies, les cultes, les docteurs, les rocs et les fondements changeants. Mais le Christ, le Fils de Dieu et le soleil de justice, ne change pas. En lui son peuple est rassemblé et est assis d'ensemble dans les lieux célestes en lui, revêtu de Jésus-Christ, le soleil, qui est la montagne qui remplit toute la terre de sa puissance divine et de sa lumière. Ainsi tout son peuple le voit et le sent, tant sur mer que sur terre. Il est senti et vu en tout lieu de la terre par tous les siens. Il dit aux professants extérieurs, les Juifs, « Je suis d'en haut, vous êtes d'en bas, vous êtes de ce monde. » Ainsi leur religion, leur culte, leur voie, leur docteur, leur foi, leur croyance et leur credo sont faits par des hommes, et sont d'en bas, de ce monde qui change comme la lune. Vous pouvez voir que leur religion, voie, culte et docteur sont tous changeants comme la lune. Mais le Christ, le soleil, dont l'Église est revêtue, ne change pas, ni son Église, car ils ont une pensée spirituelle, et leur voie, leur culte et leur religion sont spirituelles, venant du Christ, qui est d'en haut et non de ce monde. Le Christ vous a rachetés de ce monde, de leurs rudiments et éléments changeants, et des vieilles choses, et de leurs docteurs changeants, et de leurs foi et croyances changeantes. Car le Christ est l'auteur et le consommateur de la foi de son Église, lui qui a dit « Croyez en la lumière, afin que vous deveniez enfants de la lumière. » Et il leur est donné non seulement de croire, mais de souffrir pour son nom. Ainsi cette foi et cette croyance sont au-dessus de toutes les fois et croyances qui changent comme la lune. Le peuple de Dieu est une nation sainte, un peuple particulier, une maison spirituelle et un sacerdoce royal, offrant à Dieu des sacrifices spirituels par Jésus-Christ. Et ils sont zélés pour la justice, la piété, les bonnes œuvres, et leur zèle est pour ce qui est de Dieu contre le mal qui n'est pas de Dieu. Le Christ a pris sur lui la semence d'Abraham, il ne dit pas la semence corrompue des gentils. Ainsi, selon la chair, il était de la sainte semence d'Abraham et de David, et son corps et son sang saint furent une offrande et un sacrifice pour les péchés du monde entier, comme un agneau sans défaut, dont la chair ne vit pas la corruption. Par l'unique offrande de lui-même dans le Nouveau Testament ou Nouvelle Alliance, il a mis fin à toutes les offrandes et sacrifices parmi les Juifs dans l'Ancien Testament. Le Christ, la sainte semence, fut crucifié, mort et enseveli selon la chair, et ressuscité le troisième jour, et sa chair ne vit pas la corruption. Bien qu'il fût crucifié dans la chair, il fut relevé à la vie par l'Esprit, et il est vivant, et vit au siècle des siècles, et toute puissance lui a été donnée au ciel et sur la terre, et il règne sur tout, et il est l'unique médiateur entre Dieu et l'homme, l'homme Christ Jésus. Le Christ a dit, il a donné sa chair pour la vie du monde, et l'apôtre a dit, sa chair ne vit pas la corruption, ainsi, ce qui n'a pas vu la corruption, il l'a donné pour la vie du monde corrompu, pour les faire sortir de la corruption. Le Christ a dit encore, celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Et celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. Celui qui ne mange pas sa chair et ne boit pas son sang, qui est la vie de la chair, n'a pas la vie éternelle. Comme l'apôtre a dit, tous sont morts en Adam, alors tous sont morts. Or tous ceux qui viennent spirituellement manger la chair du Christ, le second Adam, et boire son sang et sa chair donnent la vie à tous les morts en Adam, et les vivifient hors de leurs péchés et de leurs offenses dans lesquelles ils étaient morts. Ils viennent s'asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, et sont membres vivants de l'Église du Christ dont il est la tête, et sont revêtus du soleil de justice, le Fils de Dieu, qui ne change jamais, et ils ont sous leurs pieds la lune changeante, et toutes les choses mondaines changeantes, inventions et ouvrages des mains des hommes. Ceux-ci voient le peuple, comment il change d'un culte à un autre, d'une religion à une autre, d'une voie à une autre, d'une église à une autre, et pourtant leurs cœurs ne sont pas changés. La lettre de l'Écriture est lue par les chrétiens comme par les juifs, mais le mystère est caché. Ils ont l'habit de brebis, s'appelant chrétiens, mais, au-dedans, ils sont dévorés par l'Esprit, qui devrait les amener dans la nature de l'agneau et de la brebis. L'Écriture dit, « Tous les incirconcis doivent descendre dans la fosse, c'est pourquoi tous doivent être circoncis par l'Esprit de Dieu, qui dépouille le corps de mort et les péchés de la chair, entrés dans l'homme et la femme par leur désobéissance et la transgression des commandements de Dieu. Je dis, tous doivent être circoncis par l'Esprit, qui dépouille le corps de mort et les péchés de la chair, avant de monter en Christ, leur repos, qui n'est jamais tombé, et d'être revêtus de lui, le soleil de justice. George Fox est davantage tiré de son journal. L'apôtre a dit qu'il doit y avoir d'abord une apostasie avant que le méchant, l'homme de péché, le fils de perdition, soit révélé, celui qui trahit le Christ au-dedans, comme le fils de perdition trahit le Christ au-dehors, et ceux qui trahissent le Christ au-dedans se crucifient de nouveau le Christ et l'exposent à l'opprobre. Avant que les apôtres ne décèdent, cet homme de péché et ce fils de perdition furent révélés, car ils virent venir l'Antéchrist, les faux prophètes, les faux apôtres et les séducteurs, ayant une apparence de piété, mais reniant la puissance. Ils virent les loups vêtus d'habits de brebis, et ceux qui suivaient la voix de Caïn, de Corée et de Balaam, et celle de Jézabel, et la prostituée de Babylone, la prostituée de confusion, la mère des prostituées, et ceux qui étaient ennemis de la croix du Christ, qui ne servaient pas le Seigneur Jésus-Christ mais leur propre ventre. Le Christ vit qu'il viendrait, et dit, s'il était possible, il tromperait les élus, et il commanda à ses disciples de ne pas les suivre. L'apôtre dit, « Détournez-vous de tels gens », et le Christ et ses apôtres avertirent l'Église du Christ au sujet de tels gens. En ce jour du Christ et de son Évangile, après la longue nuit d'apostasie loin de la lumière, de la grâce, de la vérité, de la vie et de l'Esprit de Jésus-Christ, le Fils de perdition, le méchant, l'homme de péché est de nouveau révélé. Et les loups qui dévorent au-dedans, en habits de brebis, sont vus, et l'esprit de Caïn, de Corée, de Balaam, de Jézabel, les antéchrists, les faux prophètes et les faux apôtres, et ceux qui sont ennemis de la croix du Christ. Ceux-là ne servent pas le Seigneur Jésus mais leur propre ventre, et se crucifient le Christ, et l'exposent à l'opprobre. Cet esprit, nous l'avons vu en ce jour évangélique du Christ, mais le Christ les consumera par le souffle de sa bouche, et les détruira par l'éclat de sa venue. Mais le peuple de Dieu, qu'il a choisi pour le salut en Christ dès le commencement, par la sanctification de l'Esprit et la foi en la vérité, demeure ferme en Jésus-Christ, et rend grâce à Dieu par et au travers de son Fils, leur rocher et salut, leur bonheur, et leur héritage éternel. L'apôtre a dit, « Vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés aux bergers et aux surveillants de vos âmes. » Ainsi, lorsque les gens reviennent à Christ, leur berger, ils connaissent sa voix et le suivent, et sont retournés vers le surveillant de leurs âmes, alors ils croient en lui et reçoivent de lui sagesse, intelligence et discernement, de celui qui vient d'en haut, céleste et spirituel. Ensuite, ils se comportent comme des hommes et des femmes saints et spirituels, et en viennent à être membres de l'Église du Christ. Alors un soin spirituel vient sur les anciens en Christ, afin que tous les membres marchent en Christ, dans sa lumière, sa grâce, son esprit et sa vérité, afin qu'ils puissent embellir la confession et la profession de Christ, et veillez à ce que tous marchent dans l'ordre du Saint-Esprit et de l'Évangile éternel de paix, de vie et de salut. Cet ordre tient la confusion à l'écart, car l'Évangile de paix, la puissance de Dieu, existait avant la confusion. Tous les héritiers de l'Évangile sont héritiers de son ordre, et sont dans cet Évangile qui met en lumière en eux la vie et l'immortalité, par lequel tous les hommes et les femmes peuvent voir leur œuvre et leur service en lui, prendre soin des pauvres veuves et des orphelins, veiller à ce que rien ne manque, et à ce que tous honorent le Seigneur dans leur vie et leur conduite. Lorsque toute la maison d'Israël était dans ses fosses et ses tombeaux, et qu'on l'appelait les os secs dispersés, ils pouvaient pourtant parler et dire « Nos os sont desséchés, notre espérance est perdue », ou qu'ils étaient sans espérance et retranchés. Ils étaient vivants extérieurement et pouvaient parler extérieurement. Ainsi, ce qu'on appelle la chrétienté peut fort bien être appelée « les os secs dispersés », et l'on peut dire qu'elle est dans ses fosses et ses tombeaux, morte au souffle de vie céleste, à l'esprit et à la parole de vie qui rassemble vers Dieu. Bien qu'ils puissent parler et soient vivants extérieurement, ils demeurent pourtant dans les assemblées ou églises des morts, qui n'ont pas la vertu de la vie en Christ. Car les Juifs, sur lesquels Dieu a répandu son esprit et à qui il a donné sa loi, lorsqu'ils se sont rebellés contre l'esprit de Dieu et se sont détournés de Dieu et de sa loi, sont devenus des os secs et dispersés, et ont été renvoyés dans leurs fosses et leurs tombeaux. Ainsi la chrétienté qui s'est détournée de la grâce, de la vérité et de la lumière du Christ, et de l'Esprit que Dieu a répandu sur toute chair, est devenue les os secs, dispersés, elle est dans ses fosses et ses tombeaux, et ce sont les assemblées ou églises des morts, bien qu'ils puissent parler et soient vivants extérieurement. Christ a dit, « Je suis venu afin qu'il ait la vie et qu'il l'ait en abondance, il a donné sa chair pour la vie du monde, et il a dit, « Je suis la résurrection et la vie, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi, Christ est l'Esprit vivifiant. Tous ceux qui sont morts en Adam doivent être vivifiés et rendus vivants par Christ, le second Adam. Et lorsqu'ils sont vivifiés et rendus vivants par lui, ils se réunissent au nom de Jésus-Christ, leur Sauveur, qui est mort pour leurs péchés et qui est ressuscité pour leur justification, et ainsi a été mort et est vivant, et vit au siècle des siècles. Tous ceux qu'il a vivifiés et rendus vivants, c'est-à-dire tous les vivants se rassemblent au nom de Jésus qui est vivant, et lui, leur prophète, berger et surveillant vivant, est au milieu d'eux, il est leur rocher et leur fondement vivant, et un médiateur vivant entre eux et le Dieu vivant. Ainsi les vivants louent le Dieu vivant par Jésus-Christ, par qui ils ont la paix avec Dieu. Tous les vivants ont du repos en Christ, leur vie, il est leur sanctification, leur justice, leur trésor de sagesse, de connaissance et d'intelligence, qui est spirituel et céleste. Il est l'arbre et la racine spirituelle, dans lesquels tous les croyants dans la lumière, la vie en Christ, qui passent de la mort en Adam à la vie en Christ, qui vainquent le monde et qui sont nés de Dieu, sont greffés en Christ, l'arbre céleste, qui soutient toutes les branches ou greffes spirituelles. Ceux-ci se réunissent en son nom, sont rassemblés en lui, et siègent ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus, leur vie, qui les a vivifiés et rendus vivants. Ainsi tous les vivants adorent le Dieu vivant dans son Saint-Esprit et dans la vérité dans lesquels ils vivent et marchent. Dans cette adoration, l'esprit immonde et impur, le diable, ne peut entrer, car le Saint-Esprit et la vérité sont au-dessus de lui, et il en est exclu. C'est là l'adoration établie et permanente que Christ a instituée dans sa nouvelle alliance. Et ceux que Christ vivifie sont les pierres vivantes, les membres vivants, et la maison et l'église spirituelle, ou assemblée du Christ, qui est la tête et l'époux vivant. Ceux que Christ rend vivants sont une église vivante, ont une tête vivante, et sont sortis des assemblées ou églises des morts en Adam, où la mort et la destruction parlent de Dieu, et de ses prophètes et apôtres, dans leur sagesse d'en bas, terrestre et diabolique, dans une connaissance bestiale, et dans une intelligence qui aboutit à néant. Car ce qu'ils connaissent est naturel, par leur langue naturelle, leurs arts et leurs sciences, dans lesquels ils se corrompent. Tel est l'état des morts en Adam, mais les vivifiés, rendus vivants par Christ, discernent entre les vivants et les morts. George Fox, le but de ce site web est de montrer comment être libéré du péché en bénéficiant du pouvoir transformateur de Dieu par la croix, qui conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.